à aujourd'hui. Le garage à Dan, le boulevard du rock, le rock and chill, le rock à mat. Boulevard 102.1, la meilleure musique de la business.
102.1.
Boulevard!
102.1.
On en jase à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Le midi,
on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission du midi. Ton émission, on fait le tour de l'actualité pour toi, on parle des grands enjeux. Et on s'amuse aussi. Aujourd'hui à l'émission, on va notamment parler de violence dans les écoles avec le prof Duclos. On va aussi parler d'homophobie, excellente chronique. Du chroniqueur dans le Nouvelliste, Martin Franqueur. Imagine-toi donc, Charles Milliard et Éric Duhem sont rendus des chefs de partis politiques. Les deux ont avoué ouvertement être homosexuels. Il y a des gens qui écrivent à Martin Franqueur, qui également est homosexuel. Ça n'a pas d'allure. Les gays nous envahissent. Et encore en 2026, Pascal. Urk! Donc ben rétrograde. On va parler de ça. Et également, on va jaser d'itinérance avec Marie-Lie Plante du RAIC. Grosse sortie hier des organismes communautaires en itinérance à Québec. Accompagné par Québec solidaire, on demande des plans de match à Bernard Dréville et Christine Fréchette. 50 personnes itinérantes maintenant par soir à Québec qui n'ont pas de place dans les refuges. Les refuges débordent. C'est une première. Puis j'ai l'impression que ça va juste s'empirer. Donc on a tout ça à l'émission pour vous. On va également revenir sur le procès de Mathieu Martel avec l'excellent journaliste du Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Tu sais, c'est ces semaines-là où tu dis « Ah, on est déjà vendredi. » Ça veut dire que la semaine a bien été.
C'est vrai, ça.
Puis je t'en veux.
Comment ça?
Je suis un peu pas fâchée contre moi, mais je suis déçue de mon collègue avec qui je passe tant de temps. Bonjour Farnel qui se joint à nous en passant
dans
quelques minutes.
Pourquoi t'es déçue de moi?
Parce qu'on a pris du temps aujourd'hui pour jaser ensemble de tout ce qui n'est pas un show puis de la radio.
T'as raison.
Puis il y a une affaire que tu ne peux pas raconter. Je sais que tu l'as raconté le matin.
Oui, je l'ai raconté
le
matin.
Je m'en fous, OK, que tu l'aies raconté ce matin. Je veux juste faire une parenthèse. Puis on peut ouvrir le micro de Farnel qui est là aussi. Mais je suis crampée que ton fil d'ordi...
Oui.
A comme cessé de fonctionner. Puis là, tu es allé voir le tech, puis tu as dit, mon fil d'ordi fonctionne plus. Fait qu'il a dit, ben oui, effectivement, je constate. Fait que lui, s'en va voir la chef comptable.
Ouais.
Puis la chef comptable dit, non, Jeff va le payer de sa poche.
Ouais.
Avez-vous déjà entendu ça en entreprise? Je fais un bronze.
Ben oui.
Il est comme, voyons, c'est bien
bizarre. 418-971-102.
Puis dans le fond, c'est que la chef comptable, c'est la copine, donc la conjointe de Jeff.
C'est ça.
Et à la maison, semblerait-il que ça fait des semaines qu'elle dit à Jeff, laisse pas traîner ton fil, le lapin va le gruger. Et le lapin a grugé le dit fil, donc elle refuse que l'entreprise...
Non, ça passe pas. Ça, c'est un conflit d'intérêts inversé.
Je braille de rire depuis tantôt.
Donc, je suis obligé de payer mon fil.
Parce que sa blonde, il a dit à la maison, ben elle dit, c'est pas vrai que l'entreprise... Puis elle défend l'entreprise devant son chum, va payer ton nouveau fil parce que je te l'ai dit à ma
Et là, Nick, le propriétaire, qui dit Val, j'avais toujours su que t'étais une fille loyale.
Ah non, mais c'est pas, ça n'a pas de bon
c'est
sens.
C'est tellement bon, cette histoire-là.
Faut t'es que en train
de es financièrement pénalisé pour avoir une relation sociale intime avec un membre de.
Le gars de droit,
non,
le gars de droit qui a.
Ça, là, ça passe pas.
Puis là, Farnel, tu vas être d'accord avec moi, je comprends pas parce que les nouveaux comptoirs sont installés cette semaine. La cuisine est flambant neuve.
Ben, j'espère que tu vas à ton... J'espère que tu gardes ça dans ta poche arrière pour le bon moment.
Mais je pleure.
Tu sais, normalement, ma conjointe serait censée dire hey, c'est cool, on a une nouvelle cuisine.
Ouais.
Serait censée voguer sur un nuage et dire ah, Kaylin, il n'y a pas de trouble. L'entreprise va payer le fil. Non, je vais payer le fil.
Écoute, la prochaine fois qu'il veut prendre une journée de congé parce qu'il est malade puis tu sais qu'elle ne l'est pas, j'espère que tu vas la dénoncer.
Mais elle ne fait pas ça.
Bon, OK.
Il va falloir la pogner sur autre chose.
Ouais. Elle est malade par-dessus la tête, puis elle travaille.
Ah, il faut du tac au tac. Il faut que tu répondes.
OK, alors la prochaine étape dans le cas de Jeff Farnel, quelle est-elle? Tu proposes quoi?
Ouais. Je fais quoi, mon juriste préféré?
Ben, je pense que ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu vas chercher le fil le plus cher possible et puis tu le passes dans tes dépenses conjointes.
Ben, c'est parce que là, j'ai menacé. J'ai
menacé. Dépenses conjointes à la maison?
Oui, c'est ça, parce que là, j'ai menacé. J'ai dit, le prochain resto, je le paye pas.
OK, on est dans la manifestation.
Je suis allé avec une menace.
Hey, sérieux, Jeff, là, Jeff est sérieux. C'est un cerveau, il est tout le temps... quand il m'arrive avec une histoire de même.
Ah, non, non,
moi, j'ai plus beaucoup d'émotions à faire quelque chose.
Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. On va aller voir Lambert Drainville, justement, qui est en Londres, parce que c'est le sujet de discussion. C'est le, je devrais dire, c'est le moment de discussion avec Lambert et Farnell le vendredi, toujours de midi 5 environ, midi 20, midi 25. Lambert, tu as déjà travaillé, toi, avec ton père. T'as-tu déjà fait quelque chose comme ça?
Non, pas en tout. Non, nous, on a toujours été assez bons pour séparer le professionnel du personnel.
Oui, exactement.
Je te dirais que de ce temps-ci, c'est de plus en plus compliqué, par contre.
Oui.
Ah oui, pourquoi?
Oui. Ben oui.
Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, on n'est pas au courant.
Non, mais c'est quand il est sorti des studios de Boulevard l'autre jour, on lui a dit, il nous a dit, vous avez des enfants, puis moi, Yannick Marceau, on a dit oui. Ben, tu sais ça. Il dit, vous allez comprendre. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile dans la position où il est présentement.
Ouais, non, c'est plus ça avance, laisse-moi dire, plus c'est vraiment weird. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est drôle parce que j'en parlais avec Farnell au téléphone cette semaine, esprit. Puis c'est ça, c'est quand même une position qui est particulière. Là, tu veux être là en tant que fils pour supporter ton père, tu lui souhaites le meilleur, mais en même temps, tu as un rôle aussi dans les médias puis sur les médias sociaux. Fait que tu as un devoir de réserve, tu as un devoir de recul. Puis ouf! Les gens, évidemment, remettent ça en question.
On t'attaque-tu là-dessus, Lambert?
Absolument, absolument. Puis c'est ça, là, c'est pas une journée facile aujourd'hui, je vais vous le dire. Là. C'est une journée où je suis moins de bonne humeur que d'habitude. J'ai un travail à faire, je pense, de détachement par rapport aux commentaires qu'on fait sur les médias sociaux. Là, j'ai pas encore développé la capacité d'avoir le recul nécessaire pour juste vivre ma vie, avancer et que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête.
C'est-tu la première fois que tu es exposé de cette manière-là? Probablement oui, vu que ta job est rendue plus publique. Là. Avant, c'était les gens que tu chapeautais en politique qui le vivaient. Là, c'est toi.
Ouais, exact, exact. C'est un peu une nouvelle réalité, puis c'est pas pour me victimiser du tout, là.
Non, non, non.
Je me victimise pas, mais c'est ça, c'est une nouvelle réalité. Farnell, lui, ça fait beaucoup plus longtemps que moi qu'il fait des vidéos sur les médias sociaux, fait que je pense qu'il a une meilleure capacité que moi pour l'instant à faire la part des choses, mais... C'est de la merde.
Ouais. Justement, Farnell, j'allais te poser la question. Comment tu as fait pour te créer cette carapace-là? Parce que tu sais, je regarde toutes tes vidéos sur les médias sociaux, puis je regarde des commentaires aussi. Pas toujours élogieux. Comment tu fais?
Il y a une espèce de tabou d'en parler, parce que d'un côté, tu veux pas encourager les gens méchants à leur donner l'impression que ce qu'ils font, ça marche, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça t'affecte. Mm-hmm. Mais ça fait toujours mal. Les seules personnes qui peuvent vraiment dire ça m'affecte pas, c'est des sociopathe, puis on y en a pas beaucoup. Ça fait toujours mal. C'est juste qu'éventuellement, tu sais, quand la première claque a fait mal, la cinquième a fait un petit peu moins mal, puis la 250e, ben tu l'encaisses puis tu passes au prochain. Là. Ils font tout mal, mais t'avances. T'sais.
Qu'est-ce qui fait le plus mal au niveau psychologique, dans le sens où on critique votre valeur ou on critique votre physique?
Ah, moi, que les gens me disent qu'ils m'aiment pas à face, je suis comme, moi non plus, je m'aime pas à face. Fait que c'est correct. Là-dessus, on est d'accord. Non, moi, ce qui me fait mal, c'est les gens qui, après avoir écouté 15 secondes d'une vidéo, remettent en question l'entièreté de mon intégrité. Ça, c'est douloureux.
Moi, ouais, je comprends. Parce que, en plus, que toi, dans ta fonction de juriste, quand
tu
amènes quelque
chose,
en ligne, c'est vraiment, t'es pensé, structuré, vérifié. Ouais. Donc, c'est intègre par le fait même. Toi, Lambert, qu'est-ce qui te fait le plus mal dans les commentaires que tu reçois?
Un peu la même chose, je te dirais, je pense que c'est, tu sais, j'ai pas d'enjeu à ce que les gens trouvent ça weird, là, tu sais, je suis le premier, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, que je trouve ça weird, la situation dans laquelle je me trouve, je pense que c'est une première au Québec, là, ben honnêtement, là, en tout cas, j'ai fait une petite recherche. Le fils de René Lévesque était journaliste au Devoir à l'époque, quand son père était en politique, mais il commentait pas la politique provinciale, il commentait le municipal puis la politique internationale, fait que c'était pas exactement la même chose, là, un fils de... candidat pour être premier ministre qui parle et analyse les dossiers en politique provinciale alors que son père a deux mains dedans, c'est probablement une première. Puis je comprends l'image que ça peut donner. Moi, c'est ce qui me fait le plus de peine, je pense, c'est le fait que les gens soient pas capables de faire la part des choses puis pensent que, tu sais, je suis pas au courant ou que je suis mal intentionné, tu sais, je veux dire, je suis dans une position qui est pas facile, puis j'essaye de prendre le recul nécessaire, mais ça demeure quand même mon père, tu sais, fait que, est-ce que, si on me demande, est-ce que, tu sais, est-ce que j'aimerais ça? T'aimerais-tu ça en tant que fils que ton père gagne la course à la chefferie?
Ben, c'est clair.
La réponse, c'est oui. Là,
surtout quand le poste de premier ministre est en jeu. Là.
C'est mon père. Après ça, est-ce que tu si j'ai analysé ses propositions, ce qu'il propose, les différents gestes politiques qu'il pose, ben là, à ce moment-là, c'est une autre question. Puis moi, c'est quand les gens. En fait, ce qui me fait le plus de peine, c'est les gens qui pensent, qui assument que je ne suis pas capable de me faire ma propre idée. T'sais. Puis j'ai pris position en faveur du troisième lien sur vos ondes, puis sur différentes plateformes récemment. Puis les gens commentent, bon, c'est bien, hein, si ils pensent de même parce que son père pense de même. T'sais, comme si je n'étais pas en mesure de, à 29 ans, me faire ma propre idée, puis que 100% de ma pensée critique relevait de ce que pensent mes parents. Ça, je trouve que c'est un peu blessant, puis je trouve que c'est un manque d'intelligence, ben honnêtement, des gens qui commentent ça.
Mais en plus, j'ai pensé à toi, puis j'ai beaucoup d'empathie pour ça, parce que il y a une affaire. J'ai pas la switch à être en maudit facilement, à mon avis. Il n'y a pas grand-chose qui va venir me gratter l'intérieur du ventre, mais l'injustice, je la trouve tough. Faut que je m'améliore là-dessus. Là. Tout le monde veut vieillir à un moment donné, prendre la maturité, mais Lambert, en ce moment. Puis j'ai partiellement travaillé avec ton père, mais tout ce qui est laïcité est très difficile. Hein? C'est difficile pour certains de l'ingérer avec le port du voile, certaines femmes qui ne travailleront plus parce qu'elles ont décidé de continuer à exercer leur religion puis tout ce que ça comporte. Puis je regardais les commentaires sous les publications de Bernard Drainville hier quand il faisait l'annonce puis essayait de justifier tout ça puis il était questionné. Et il y avait beaucoup de messages genre sexiste, raciste, tu es ci, tu es ça. Considères-tu ton père comme étant sexiste et raciste en général dans la vie?
Vraiment.
Il n'y a pas de réponse autre que ben non, évidemment. Là,
je dis, ben écoute, ben si il dit oui, on a quelque chose là.
Vraiment, c'est de la façon qu'il m'a élevé.
Je suis journaliste de formation, je tentais.
Non, évidemment que non, absolument pas. Puis tu sais, ben honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont une image de Bernard dans la sphère publique, puis je l'ai vécu quand j'étais à l'intérieur du gouvernement, tu sais, des gens qui le connaissaient comme analyste politique, puis quand il est devenu ministre au gouvernement, ben ils ont appris à le côtoyer en coulisses, puis là, ils venaient me voir pour me dire « Ah, ben c'est le fun, tu sais, j'apprends à connaître un être humain qui, bon, est plus, beaucoup plus empathique que ce que je pensais, beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux que ce que je pensais. Fait que souvent, les gens se basent sur une perception d'une sortie publique ou juste d'une opinion qui n'est pas la leur pour définir 100% de la valeur de l'homme. Puis ça, encore une fois, je trouve que c'est un grand manque d'intelligence. Là, des gens qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Je trouve que faut foncièrement que tu aies la tête dans le cul ou la tête dans le sable pour penser que... pour être incapable de prendre un pas de recul puis de dire... de faire preuve de jugeote, pour faire preuve d'un petit peu de nuance, bref, dans ce genre de commentaires-là que tu soulevais, Pascal, de comme... T'sais, tu peux insulter la position, tu peux insulter la façon dont cette position-là est livrée, mais de là à insulter la personne, son intégrité puis ses valeurs, moi, je trouve c'est là que je débarque. Là, t'sais, pis c'est ça.
J'ai une bonne idée pour ton monter le moral, Lambert Drainville.
Oui?
Je te fais écouter 35 secondes de Ruba Gazal lorsque je lui ai posé la question. Votre règle là, pour favoriser les femmes et les non-binaires, ben c'est pas ouais. paritaire avec les hommes. Voici sa réponse.
En fait, c'est que c'est pas une mesure pour exclure. C'est que tout le monde crie puis dit ça n'a pas de bon sens, on n'arrive pas à amener des femmes en politique. Mais après ça, ils font absolument rien. C'est ce qui fait que jamais dans l'histoire du Parlement du Québec depuis plus de 150 ans, 160 ans, il n'y a jamais eu 50% de femmes. Il n'y a jamais eu une majorité de femmes. On est en 2026, là, on n'est pas en Iran. On n'est pas en Afghanistan. Et donc, nous, on prend ça au sérieux, contrairement aux autres qui préfèrent juste s'en plaindre puis ils font rien. Donc, l'idée, c'est d'amener plus de femmes. On prend ça au sérieux, c'est ce qu'on a toujours fait, puis on continue à le faire.
Moi, je trouve que cette règle-là, et je prends position, était une très mauvaise règle. L'est encore, parce qu'elle existe encore, en raison qu'on peut se priver de candidats de marque comme Alexandre Boulris. Et là, on est obligé de faire une exception à la règle.
Ouais, tu disais que tu allais me mettre de bonne humeur, ça fait pas mal l'inverse que c'est ton père d'après moi.
Oui, j'ai fait du sarcasme.
Oui, c'est ça. Écoute, on est un des parlements sur la planète qui a la plus forte représentativité féminine à l'Assemblée nationale. On a pogné un record en 2022, on en a déjà parlé, c'est 46% des femmes qui ont été élues au Québec, c'est absolument fantastique. Là. En 2003, on était très, début des années 2000, on était très, très loin de ce compte-là. Fait que déjà, de prime abord, j'ai un gros, gros malaise avec le fait qu'elle est incapable de reconnaître tout le chemin parcouru. Puis écoute, on n'est peut-être pas à 50%, mais de tous les endroits dans le monde, on est dans le top 5 certainement des endroits où on s'approche de ce 50%-là. On est à 46. Fait que tu sais, on ne s'est pas gagné, mais c'est tout un gain quand même. Puis après ça, moi, je trouve que c'est très, très contradictoire. Si tu es pour mettre une règle en place pour avantager les candidatures féminines, l'intention est noble. Évidemment que je suis pour ça. Puis si c'est ta décision en tant que parti, bien, garde, c'est ta décision en tant que parti, puis vis avec, puis va de l'avant. Puis si tu obtiens les résultats escomptés, bien, ce sera tant mieux. Moi, je vais me réjouir du fait qu'il y ait plus de femmes qui se fassent élire dans ton parti politique. Mais là, tabarouette, il me semble que ça envoie un message complètement opposé quand tu dis ben on va favoriser les candidatures féminines et non binaires, mais dès qu'il y a un candidat homme qui est connu et aimé, puis on s'entend, là, Alexandre Boulris, bon, il a fait sa marque comme un bon député dans Rosemont, mais c'est pas René Lévesque, là, tabarouette, là, ils viennent pas te tasser, tu sais. Fait que là, du moment que t'as un gars qui est... Tu sais, c'est le message que ça envoie. Moi, je trouve que c'est complètement contradictoire. Et c'est tellement... C'est encore une fois, Jeff, à chaque fois qu'on se parle de Québec solidaire, moi, c'est même pas tant la position qu'ils prennent que j'ai l'impression que c'est pas conséquent. Là, le message que ça envoie, c'est que dès que t'as un gars qui est un minimum connu, un minimum aimé dans son bout, ben on va tasser notre règle. Puis la femme qui aurait dû être là, ben on va tasser, on va mettre un homme parce qu'il est connu et aimé. Fait que je trouve que ça, au final, là, en essayant de prétendre à la vertu, tu as le résultat complètement opposé où ce que tu envoies le message que dès qu'il y a un gars qui est semi-bon, ben tu tasses la femme et tu c'est lui qui va avoir la place. En tout cas, je sais pas ce que Parnell en pense, mais.
Ouais, moi, j'ai l'instinct de surprendre un pas de recul. Je veux dire d'emblée, là, je pense pas que des quotas formels dans comment on va choisir nos candidats, c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Mais tout en s'opposant à cette position-là, je pense que c'est important d'essayer de la comprendre parce que tu peux pas avoir une opposition intelligente si tu comprends pas la position adverse. Je crois que la position favorable à des quotas, puis encore une fois, je fais l'argument sans être d'accord avec, c'est que quand on constate qu'il y a un déséquilibre, surtout dans des questions sociales, c'est surtout une question de qu'est-ce que les gens voient? Est-ce que les gens voient que c'est possible? La meilleure façon que tu peux envoyer le signal à un groupe, quel qu'il soit, qu'ils ont une place à quelque part, c'est montrer des gens de ce groupe-là dans cet endroit-là. Alors, si tu veux envoyer un signal qu'il y a la place pour plus de femmes en politique, tu mets plus de femmes en politique. L'idée, alors, c'est en disant, ben, on constate qu'il y a un déséquilibre. Alors, on va mettre un doigt, un pouce sur la balance d'un bord, le temps qu'il y ait plus de femmes qui embarquent, puis après ça, ça va s'équilibrer tout seul. C'est ça l'objectif. Mais ça mène justement, comme tu le dis, je pense à des situations qui sont très difficiles à justifier, qui heurtent le sentiment d'égalité, d'équité de base. Quand tu es en train d'avouer, oui, on est en train de mettre un pouce sur la balance dans l'objectif qu'éventuellement peut être obligé de faire, je pense que c'est l'effet à long terme de politique de même, c'est que tu te ramasses à être pas mal toujours obligé de garder le pouce sur la balance.
En effet, est-ce que ça aurait été mieux de pas faire de règles, mais... T'es dans les faits, derrière des portes closes, tu dis « Hey, écoute, on va travailler fort pour aller chercher des candidatures féminines. »
Ben, c'est ce que tous les autres partis disent qu'ils font. Puis la position de Québec solidaire là-dessus, c'est de dire « Ben oui, tous les partis disent qu'ils font. » Puis en pratique, le résultat n'est pas là.
Mais pourtant, 46% des femmes élues, c'est un bon résultat en crime.
Exactement.
Là.
Puis c'est pour ça que je suis en train de dire, t'sais, justement, là, ils ont mis le doigt sur la balance et puis il y a plus de femmes qui ont embarqué. Ben c'est vrai qu'on n'est pas totalement à 50-50, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'institutionnaliser, d'en faire une règle formelle qui va après ça devenir très difficile à enlever par la suite, parce qu'il va toujours avoir une pression politique pour la garder, qui va créer une tension constante, qui va devenir une espèce de compromis un peu malsain. T'sais, je comprends l'objectif, je pense que c'est noble vouloir avoir de la parité par n'importe quel moyen qui n'est pas nocif à long terme, mais je crois que des quotas formels, ça va trop loin.
Mais je vais me permettre d'intervenir parce que je suis comme la seule fille autour de la table par rapport à ça, puis je pense que je fais un métier qui était majoritairement masculin jusqu'à tout récemment et encore. Puis la place de la femme à la radio, puis dans le commentaire, puis la politique, était très peu offerte à quelqu'un, surtout à une jeune femme. Puis il y a une chose qui, moi, me comblerait de malaise, tu sais, j'aurais un job, mais de malaise, donc pas pour la bonne raison, ce serait d'être choisie et sélectionnée parce que je suis une femme et il faut une femme dans l'équipe et il faut... Puis ça, si à un moment donné, je le sens, ça ne me tentera plus de faire ma job, ça ne me tentera plus d'être à une place qui. Puis c'est toujours un questionnement que j'ai. Ça serait de la dévalorisation, je pense, de ma personne. Puis je me dis, OK, combien de temps j'ai en onde? Est-ce que je peux m'exprimer? Je peux-tu mettre des connaissances sur la table? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce qu'il y a un boss qui dit, ah, exprime-toi pas trop là-dessus parce que c'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un de t'entendre? Tout ça, je l'emmagasine à un moment, puis je me dis, si ça m'arrivait régulièrement, ben je serais pas là. Parce que pour moi, c'est pas du vrai féminisme. Je ne veux pas être là, puis je ne suis pas une extrême féministe, mais si j'ai un poste, j'aimerais ça que ce soit parce qu'elle est qualifiée pour le faire. Fait que s'il y avait des quotas ou quoi que ce soit, puis que ce serait dans ce sens-là que j'aurais un emploi, j'aurais un malaise. Puis ça, c'est ma perception personnelle de ça. Mais j'avoue, par contre, qu'il faut une ouverture à se dire, hey, des fois, on est-tu dans des paradigmes, des stéréotypes, puis ouais. On met pas une fille là, puis on devrait... Fait que hey, la limite et les eaux dans lesquelles on nage, c'est compliqué.
Ben, tu sais ce que tu dis, je pense que tu frappes directement sur le clou. Tu veux savoir que tu es qualifié pour être là, puis tu veux savoir que tu as été choisi pour les qualifications, mais ça ne nous empêche pas de remettre en question c'est quoi qu'on considère comme critère de qualification des fois.
Oui.
Et puis ça, tu n'es pas obligé de passer par des quotas pour faire ce travail-là à l'interne.
C'est un peu ce que je pense ouais. aussi.
Lambert, tu as déjà été dans des caucus politiques. Est-ce qu'on discute justement de la place des femmes? Puis est-ce qu'on se dit des fois, « Hey, j'ai deux candidats égales. » Je vais prendre justement la candidate féminine parce que c'est important la représentation des femmes en politique.
Bien, le résultat de 2022, quand on parlait du 46%, c'est pas le résultat de quotas formels qui ont été mis en place. Puis c'est pour ça que moi, je suis dans l'idée, surtout au Québec, les quotas, j'ai vérifié avant d'entrer en onde, la science montre que les quotas, ça fonctionne. T'sais, quand que les quotas sont mis en place dans certaines législatures où particulièrement tu as un déséquilibre marqué. Il y avait des études qui ont été faites en Inde, par exemple. Ça peut sérieusement donner un coup de pouce, mais cette différence-là est portée à diminuer. Ben, plus il y a de femmes qui sont naturellement représentées. Puis le 46% qu'on a atteint, on ne l'a pas atteint avec des quotas au Québec. On l'a atteint parce que les partis politiques se sont simplement dit, ben, on est rendu là. Puis nous autres, la CAQ s'était engagée en 2022 à ce que 55% de leurs candidates soient des candidates féminines. Et Québec solidaire avait, eux autres, c'était 60%. Fait que tu sais, Québec solidaire ont réussi à faire élire des femmes, puis on en est arrivé à un résultat qui est probant, sans quota, avec un désir naturel de dire, ben écoutez, à un moment donné, là, on peut-tu s'enlever la tête dans le sable encore une fois, puis juste arriver en 2026, puis se dire, ben que ce soit, tu sais, je veux dire, les femmes, des femmes compétentes et brillantes sont partout autour de nous. On n'a pas besoin de quotas pour atteindre une zone paritaire. Et l'élection de 2022 l'a montré. Fait que moi, vois-tu, je suis un peu au même endroit que Farnell sur les quotas en soi. Tu sais, au Québec spécifiquement, je pense pas qu'on a besoin de ça là où on est rendu. Je pense qu'on a plus besoin de mettre des règles très, très strictes, puis tatata, tu sais. Je trouve même que ça envoie, encore une fois, pas le bon message. Je trouve que juste de dire, regarde, il y a un paquet de femmes compétentes, puis on va les porter candidates parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont compétentes, puis elles vont être élues. Puis une fois qu'elles vont être élues, ben sais-tu quoi? On va en nommer dans des postes de ministre d'envergure. Tu sais, on regarde Sonia Lebel, on regarde Geneviève Guilbeault, on regarde Martine Biron, on regarde Pascal Derry, on regarde... Tu sais, c'est pas juste aussi de nommer des candidatures, c'est qu'après ça, une fois rendu au gouvernement, tu sois capable de les nommer dans des postes où ils peuvent faire la différence.
Et à sens inverse, honnêtement, encore là, opinion personnelle, j'ai pas envie qu'on exerce la parité dans le déficit masculin, dans le sens où de pas privilégier les candidatures féminines et rejeter systématiquement les candidatures masculine dans ce cas-ci. Tu sais, moi, je suis très capable de, si, mettons, Farnell et moi, on convoite le même poste, d'essayer de prouver que je peux l'avoir. Puis si c'est Farnell qui l'a parce qu'il a plus de compétences, je vais être très contente pour lui. J'embarquerai pas aussi dans un genre de lutte. Ah, vous l'avez choisi parce que c'est un homme. Je pense qu'il y a ça sur quoi on doit faire attention mm-hmm. aussi.
Non, en effet.
Puis, Jeff, je veux pas t'interrompre, mais elle s'est fait poser la question à Ruba Gazal à l'Assemblée nationale. Puis tu sais, quand je te parlais de pas être conséquent, tu sais, elle se fait demander, là, qu'est-ce qu'il y en a d'Alexandre Boulris? Puis là, elle dit, ah, j'ai pas envie de répondre sur Alexandre. J'ai pas envie de répondre sur Alexandre Boulris. On sait pas encore ce qui va arriver. Ils ont voté pour tasser une règle, pour se laisser ce gars-là présenter. Puis là, deux jours après, à l'Assemblée nationale, elle refuse de comme s'avancer sur ce gars-là spécifiquement. Tu sais, c'est comme...
Un pas en avant, trois pas en arrière.
Pourquoi tu l'as tassé si c'était pas pour lui? Ben là, c'était... T'sais, là, elle parlait d'une candidature de qualité. Là. Ce sera une candidature masculine de qualité, puis t'es comme...
Alors, mais on sait tout, puis Bullrich joue le jeu en plus d'aller au congrès du NPD. Il y a un énorme malaise dans tout ça. Hey, les gars, je vous remercie infiniment de vous être ouvert le cœur sur les commentaires que vous recevez sur les médias sociaux. Je pense que c'est très important de décrier ces situations-là. Moi, je l'avais fait durant la campagne électorale municipale quand quelqu'un m'avait dit sur les médias sociaux « t'aurais dû te suicider », fait que je l'avais décrié à la radio. Alors, merci infiniment, les boys, de vous être ouvert là-dessus.
Faites toujours plaisir.
Cool! On se reparle la semaine prochaine. Et Lambert, on se parle mercredi parce que les mercredis, c'est ta chronique aux alentours de 13h, que cette semaine, tu étais absent de façon circonstancielle et exceptionnelle.
Voilà, on se parle mercredi.
Et oublie pas, Jeff, le conseil de Farnell. Hein, tu devrais mettre ton fil d'ordinateur sur le compte conjoint.
Oui, non, je l'oublie pas.
Puis achète-en un cher.
T'es le meilleur juriste. Farnell est le meilleur juriste pour moi. Merci les gars, toujours un bonheur de jaser avec vous le vendredi.
Hey, ciao, la gang.
Salut.
À Boulevard 102.1. Avec Jeff.
Pascal, t'as dû voir ça dans l'actualité. C'est un procès que je veux suivre de très près. C'est Mathieu Martel, cet entraîneur de cheerleader, qui est accusé d'agression sexuelle sur environ là, une dizaine de victimes.
Oui, c'est complètement atroce et horrible. On s'entend, on parle au conditionnel parce que c'est en cours en ce moment.
Exactement.
Mais ça va plus loin. Tu te rends compte qu'il y avait comme une certaine organisation, si je peux me permettre. Du moins, ça semble avoir été organisé à certains moments et avoir fait des victimes qui vont malheureusement être entachées par ces comportements-là tout au long de leur vie. Là.
Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a une plaignante qui raconte la présumée, justement, agression sexuelle qu'elle aurait vécue en disant que sa première relation sexuelle de sa vie a été un triple à trois avec son entraîneur de cheerleading, Mathieu Martel, et sa conjointe alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est un témoignage très difficile qu'elle livre à l'heure actuelle au Palais de justice de Québec. Et pour en parler avec nous, on a l'excellent journaliste du Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Pierre-Paul, merci beaucoup d'être présent pour nous aujourd'hui.
Salut Jeff, salut Pascal, avec grand plaisir.
Pierre-Paul, je comprenais, tu me marquais par écrit que la victime n'aura témoigné que 5 minutes aujourd'hui parce que c'est extrêmement difficile pour elle, la présumée victime, de venir exprimer ce qu'elle aurait vécu.
Oui, tout à fait. Son témoignage a débuté hier matin. Devait se poursuivre pour toute la journée. Puis finalement, hier, au retour de la pause du dîner, le procureur de la Couronne qui a indiqué au juge qu'elle était... tout simplement incapable de poursuivre son témoignage. On voyait hier matin que c'était difficile d'être accompagné d'un chien de soutien de la police. Toutes les mesures sont mises en place pour faciliter les choses, mais évidemment, les gestes qu'elle aurait vécu aux mains de Martel sur quand même quelques années, visiblement, ont laissé des marques d'une jeune femme qui semble effectivement traumatisée. On a pris une pause hier en après-midi. On a poursuivi avec d'autres témoins et tout ça. On a tenté d'accommoder un petit peu le tribunal pour poursuivre en disant ce matin, elle sera là. Vendredi matin, elle sera de retour pour poursuivre. Puis après 5-10 minutes ce matin, elle a immédiatement demandé au procureur de la Couronne une pause pour pouvoir lui jaser. Puis finalement, elle n'est jamais revenue à la barre. Le procureur, Philippe Desjardins, qui a expliqué que c'est très difficile de se replonger là-dedans. Ça venait brasser beaucoup de choses. Il faut savoir que ce procès-là, qui est prévu pour 4 semaines, il y aura une pause de 2 semaines. Donc, ça procédera pas la semaine prochaine et l'autre semaine suivante. Donc, ça faisait un bond dans le temps. Puis, elle a dit, bon, je préférais continuer en mars. Donc, on devrait reprendre son témoignage au retour au mois de mars. Mais les gestes qu'elle est venue raconter, ce qu'elle a eu le temps de raconter hier, comme tu disais, une première relation sexuelle à 14 ans qui se serait déroulée dans un trip à trois avec Martel, qui était son coach de cheerleading, et Amélie Dubé, qui était une autre de ses coachs, qui était la coloc de Martel, avec deux adultes qui étaient en position d'autorité face à elle. Puis Martel, il faut savoir que c'est un homme qui a presque 20 ans de plus que cette jeune femme-là. Donc, évidemment, des événements traumatisants qui sont terminés le lendemain avec une visite à la pharmacie, qui se seraient terminés le lendemain avec une visite à la pharmacie pour aller chercher la pilule du lendemain. Donc, ouais, des choses pas faciles à entendre dans cette salle-là, cette semaine.
Comment ça se passe, Pierre-Paul? Toi, tu es journaliste depuis longtemps au Palais de justice, quand même, avec une certaine expérience. Dans la salle, qui est là? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi? Parce que ça reste assez particulier. On s'entend, c'est un homme de Québec qui était à Québec avec des victimes, des présumées victimes de Québec, les familles, etc. Comment ça se déroule? C'est quoi le non-verbal aussi de l'accusé?
c'est très particulier parce que c'est un dossier qui est extrêmement suivi. Il faut savoir que la communauté du cheerleading est un petit monde. C'est beaucoup de gens qui se connaissent et c'est quelque chose qui était marqué dans ce dossier-là. Dès la première comparution, les salles ont toujours été remplies parce qu'il y a plusieurs anciennes athlètes de Mathieu Martel qui viennent voir comment se passent les procédures, qui viennent supporter aussi les présumées victimes là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont été rencontrés dans ce dossier-là par les policiers, qui ont fourni des déclarations aux policiers sur ce qu'ils avaient vu, sans nécessairement être appelés à témoigner au procès. Il y a eu plusieurs déclarations. Et ce qui s'est passé après les premiers jours, ce qu'on voit, ce qui se décide un petit peu, c'est que la défense entend soulever le fait qu'il y a eu beaucoup de communication dans ce dossier-là, des gens qui se sont parlé, qui se sont donné des informations, qui ont, on semble s'en aller un petit peu vers la défense de téléphone arabe, un petit peu de qu'est-ce qui aurait pu de version qui aurait pu être fabriquée, tout ça. Donc, pour éviter quoi que ce soit, parce que l'intégrité du procès, le juge Charles-Olivier Gosselin qui a ordonné que toutes les personnes qui avaient fait des déclarations aux policiers dans ce dossier-là, et donc qui sont potentiellement la cible d'être appelé à témoigner plus tard dans le procès, on les a suivis l'affaire. Habituellement, un témoin qui a terminé son témoignage peut assister à la suite du procès, comme il pourrait y avoir des réinterrogatoires plus tard, lorsqu'on aura corroboré certains éléments à travers d'autres témoins, on pourrait demander à des gens de revenir dans la boîte, donc on a aussi exclu ces gens-là. Donc c'est un procès qui s'est débuté en demi-semaine avec une salle bien remplie, puis qui là se poursuit avec beaucoup moins de monde, parce que les gens qui étaient intéressés par le dossier, c'est les gens qu'on a exclus de la salle pour s'assurer de l'intégrité de ce processus-là et du procès qui est quand même prévu pour 4 semaines. Là. Donc, c'est un procès quand même assez important. On parle de 11 plaignantes, plusieurs chefs d'accusation. Et comme on dit, c'est tous des gens qui se connaissent. Donc, on veut éviter que des gens qui pourraient être appelés à témoigner aient entendu d'autres choses dans le cadre du procès et tout ça. Donc, on a, entre guillemets, fait un ménage sur qui peut assister à ce procès-là. C'est extrêmement tendu. Il y avait des proches de Mathieu Martel qui étaient là en début de semaine. Comme je dis, c'est un petit monde. C'est tous des gens qui se connaissent.
Est-ce que l'accusé est de glace dans le box des accusés, Pierre-Paul?
C'est un individu qui est très impliqué, je vous dirais, dans son procès. Il a demandé, et ça lui a été accordé là, par le juge, d'être démenotté dans le box. Donc, il y a seulement les liens au pied pour lui permettre de prendre des notes. Et on le voit, il est très intéressé. Il prend beaucoup, beaucoup de notes lors des témoignages. Et comme je dis, c'est des événements qui se sont déroulés. Les premiers événements là, qui lui sont reprochés remontent au début des années 2010 jusqu'au début des années 2020. Donc, c'est une période infractionnelle d'une dizaine d'années. Il y a beaucoup de corroborations à faire. Il y a beaucoup d'éléments, là, des vérifications qui peuvent être faites. Donc, on voit Martel très, très impliqué pour accompagner ses avocats, pour prendre une note à peu près tout ce qui se passe durant ce procès-là. On l'a pas entendu encore, évidemment, parce qu'on est dans la preuve de la couronne. Donc, les premiers témoins sont ceux du ministère public. Éventuellement, on risque de l'entendre témoigner. La seule chose, on l'a entendu hier parce que ses avocats ont annoncé qu'il y aurait possiblement une requête pour la révision de son incarcération durant le procès, parce qu'il avait fait une enquête sur remise en liberté. Il avait fait une première demande de révision qui avait été rejetée. Donc, son emprisonnement était ordonné pour la durée des procédures. Mais là, ses avocats ont informé le tribunal que, selon eux, il y a des nouveaux éléments. Il faut savoir qu'il y a des plaignantes qui se sont retirées au début du dossier, là, que le ministère public a annoncé pas avoir de preuves à prononcer. On devait commencer à 13 plaignantes, on est descendu à 11. Donc, j'imagine que ça, pour la défense, c'est quelque chose qui pèse dans la balance. Martel a aussi été acquitté il y a une dizaine de jours en lien avec le dossier d'une première plaignante, qui est Amélie Dupé, qui est cette ancienne colocataire-là.
Ouais, ouais.
Il aurait agressé sexuellement à une fille de 14 ans dans la fameuse histoire du trip à 3. Mm-hmm. Amélie Dubé a été accusée pour cet événement-là. Elle a plaidé coupable, mais elle était aussi plaignante contre Mathieu Martel, et Martel a été acquitté des infractions qui la concernaient. Donc, je pense que la défense estime que le portrait a un peu changé, qui est peut-être un peu allégé. Puis Martel a aussi annoncé avoir des garanties supplémentaires à soumettre. Donc, potentiellement que d'ici la fin du procès, il pourrait y avoir une requête pour qu'il soit libéré le temps que le juge Gosselin rende sa décision, parce qu'il est incarcéré, il faut savoir, depuis quand même 2023. Là. Donc, ça fait quand même un bon moment que Martel est derrière les barreaux de façon préventive. Là.
Pierre-Paul Biron, merci beaucoup pour cet excellent résumé de ce procès qu'on va suivre avec attention et au plaisir de se reparler.
C'est un grand plaisir, n'hésitez pas à vous.
Merci, salut Pierre-Paul. Salut. Pierre-Paul Biron, excellent journaliste, Journal de Québec sur les affaires judiciaires que vous pouvez lire à chaque jour dans le journal et surtout durant ce procès. On fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, on va parler d'homophobie parce que, croyez-le ou non, on est en 2026 et Martin Francœur, chroniqueur pour le Nouvelliste au Coop de l'Information, s'est fait envoyer un texto sur « Les gays sont en train de nous envahir ». Pourquoi? Parce que Éric Duhaime et Charles Milliard, deux chefs de partis politiques, sont ouvertement homosexuels. On est en 2026.
Hier, j'entendais Denis dans son émission ici là,
ouais.
dire « D'après moi, il y en a qui sont retournés dans les vieilles affaires et ont décidé de rester collés ».
Ouais, et on va parler également avec le prof Duclos. Violence dans nos écoles, c'est le gros sujet de la semaine. Il y a eu une enquête qui a été faite par une étude qui a été déposée par la Fédération autonome de l'enseignement. On va parler de tout ça également avec Sylvain Duclos dans un instant à On en jase sur Boulevard 102.1.
Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Midi 42 minutes à votre émission On en jase. Dans quelques instants, on va parler d'homophobie avec le chroniqueur Martin Francœur et de violence dans les écoles avec prof Sylvain Duclos. Vous le savez, vous l'utilisez très bien. 418-971-1021 pour nous parler. Téléchargez l'application Boulevard, meilleure façon de nous écouter sur App Store et Google Play Store. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Pascal CV qui vient de déposer justement le segment Lambert, Drainville, Farnell, Morisset. Les gars à cœur ouvert sur les commentaires violents qu'ils reçoivent sur les médias sociaux. Et on a également parlé de Québec solidaire et de la parité homme-femme. Pascal, avant de parler avec le chroniqueur Martin Francœur, qu'est-ce qui se passe dans notre actualité?
Plusieurs choses. En fait, on peut aller un petit peu plus près de nous, mais hier, je te parlais d'une enquête qui s'est résumée en des perquisitions et des arrestations liées au BFM, hein, à Blood Family Mafia.
Oui.
Je peux te confirmer maintenant que ce sont 10 suspects qui sont liés au BFM qui ont été arrêtés dans la frappe policière hier à Montmagny. Alors, en plus des arrestations en termes de suspects entre 23 et 56 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perquisitions qui ont été faites, entre autres sur de la drogue, on s'entend, c'est en matière de drogue majoritairement, mais près de 16 000 $ en argent canadien, près de 120 grammes de cocaïne, 3 000 comprimés méthamphétamine et je pourrais continuer comme ça, mais beaucoup, beaucoup de preuves en fait pour la police au niveau des arrestations. Sinon, Bill Clinton est dans l'actualité oui. en ce moment parce que la commission d'enquête sur l'affaire Epstein le pointe. Il a été interrogé par les élus américains. Après Hillary Clinton, c'était Bill Clinton, donc l'ex-président américain, et il a commencé à s'expliquer aujourd'hui. Très nombreux en termes de faits. Ça a été documenté aussi. Il y a beaucoup de choses tangibles qu'on dépose actuellement. Alors que les démocrates continuent de réclamer d'entendre Donald Trump, qui lui aussi est un ancien proche du criminel sexuel et qu'on n'a toujours pas de nouvelles à ce niveau-là, à savoir s'il va faire partie des gens qui sont pointés du doigt au niveau du témoignage. Et peut-être, je pourrais terminer sur quelque chose intéressant pour notre économie, mais peut-être moins intéressant sur le fait d'être prêt quand quelque chose arrive. Menace de Trump, le PDG de Bombardier, il n'y a pas cru, comme ouais. beaucoup. Hein? C'était dans l'actualité aujourd'hui, mais Éric Martel était surpris par la sortie de Donald Trump envers Bombardier il y a quelques semaines. Puis il savait qu'il s'agissait de menaces en l'air. Il dit ça se pouvait pas. 4 000, 5 000 avions canadiens qui volent aux États-Unis. Donc, s'ils avaient été décertifiés, le réseau aurait été complètement effondré aux États-Unis. Alors, il explique un peu toute la difficulté de prendre ou pas au sérieux les paroles de Donald Trump, qui Trump met des fois en fait à exécution et en d'autres
effet.
Non.
Ouais. Il est de moins en moins crédible, le président américain. La météo, moins 4 degrés à l'heure actuelle, possibilité d'averse de neige. Pluie ou neige, 4 degrés pour demain, moins 9 avec de la neige pour dimanche. Le soleil revient lundi. Il a signé une excellente chronique dans le Nouvelliste et il l'a partagée avec les coops de l'information. Martin Francœur, chroniqueur, a titré « Les gays sont en train de nous envahir ». Martin, merci beaucoup pour ton temps ce midi avec nous.
Ça me fait grand plaisir, Jeff. Bonjour aussi à Pascal.
Martin, dans ton texte, tu dis « J'avais prédit à mon patron que ça allait arriver quand Charles Milliard allait être nommé officiellement chef du Parti libéral du Québec. » Coudon, en 2026, on est-tu encore homophobe au Québec?
Ah ben, plus que jamais, je dirais. À voir la façon
dont la violence, dont les propos homophobes, dont les propos misogynes font une progression, par exemple dans les écoles. Là, puis c'est ce qu'on voit. Il y a un super bon dossier dans la presse aussi aujourd'hui qui révèle ça. On est en train de subir un recul parce qu'il faut reconnaître que les progrès qui avaient été faits au cours, disons, des 25 dernières années, ils étaient...
Oups.
Oh, on a perdu Martin. On va voir.
Ah, bon, ah. Vous êtes de retour. Je ne sais pas si vous êtes déplacé, mais restez à l'endroit où vous avez pris l'appel, s'il vous plaît.
j'ai pas bougé, soyez assurés.
Okay, on vous entend.
Donc, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on observe cette montée de l'intolérance, de propos violents, de propos haineux dans les écoles. Il y a un bon dossier dans la presse là-dessus. Et on peut se demander comment ça se fait qu'on en est arrivé là, arrivé à observer ce recul-là dans l'ouverture, dans la tolérance, par exemple, face à la différence, face à l'orientation sexuelle. Et c'est un peu ça que j'avais prédit. Je me disais, avec l'élection d'un Charmillard à la tête du PQ, du PLQ, c'est-à-dire, ben il y a quelqu'un qui va faire le lien à un moment donné en disant, bon, il y a Charmillard, il y a Éric Duhaime. Alors le commentaire est sorti, je l'ai vu là, et c'est ça le titre auquel vous faisiez allusion, Jeff. Les gays sont en train de nous envahir. C'est mot pour mot ce que j'ai lu dans les commentaires d'une publication sur les réseaux sociaux.
Ça fait pas de sens pour moi en 2026 qu'on en soit là, Martin. Toi, comment t'expliques ce recul-là? Parce que oui, on le sent chez les jeunes, et pourtant, il y a des actions concrètes qui sont faites. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis coach au hockey de mes garçons, et dès qu'il y a quelqu'un qui va utiliser le mot « fif » sur la patinoire et que l'arbitre l'entend, c'est 5 matchs de suspension automatique. Mais comment ça, on est de retour en arrière sur les questions d'homophobie?
Je me suis posé cette question-là, puis il y a des chercheurs pas mal plus expérimentés que moi qui ont soumis des hypothèses. La première étant la pandémie, là, qui a soi-disant accéléré peut-être des formes de polarisation et qui a eu pour effet de normaliser des discours plus extrêmes. C'est-à-dire que pendant la pandémie, beaucoup de jeunes se sont réfugiés sur les réseaux sociaux, sur des podcasts. Et parmi les influenceurs qui sont suivis, ben il y a des masculinistes, il y a des personnes qui sont ouvertement homophobes, qui prônent des idéologies plus de l'extrême droite. Mm-hmm. Il y en a toutes sortes, là. Et c'est vrai aussi pour la gauche, l'extrême droite.
Donc, on l'explique par le plus grand accès, justement, à ces plateformes-là?
Peut-être, et aussi parce que le fait que ces modèles de masculinité toxique ou d'homophobie ont été plus abondants dans l'espace public auquel ont accès les jeunes. Puis, faut pas oublier une chose aussi, Jeff, c'est qu'il y a parmi les personnes les plus puissantes de la planète des personnes qui sont misogynes, homophobes, violentes, qui ont des propos suprémacistes blancs, et qui sont jamais punis pour ça. Contrairement aux 5 matchs de suspension, et je salue cette initiative-là, là, quand on entend le mot FIF dans des manifestations sportives, ben eux autres, les leaders qui proposent ou formulent des propos violents, misogynes, homophobes, peu importe, ils sont pas punis. Alors les jeunes se disent, ben si eux sont pas punis, moi aussi j'ai le droit d'adhérer non seulement à cette idéologie-là, mais je serai pas puni si je le fais. Alors c'est un peu ça peut-être qui expliquerait le recul qui va jusqu'à provoquer beaucoup de désarroi chez les profs, les premiers intervenants dans les écoles qui savent plus quoi faire avec cette montée-là qui est complètement décomplexée. Alors c'est un triste recul en arrière, puis il y a probablement plein d'autres facteurs qui l'expliquent aussi, mais je pense qu'il y a des comportements qui imitent, hein. Il va souvent par mimétisme sur ce qu'on voit des leaders ou des influenceurs ou des personnes envers qui on a une certaine attirance ou une sympathie idéologique.
Vous avez accroché sur ce commentaire-là que vous avez reçu dans votre boîte courriel. Est-ce que c'est aussi plus nombreux? En termes de commentaires, ce que vous recevez dans votre boîte courriel, y a-t-il d'autres choses qui attirent votre attention?
Je dirais, dans ma boîte courriel, non. Là. Les gens sont assez tranquilles. On dirait que les gens se gardent encore une petite gêne. Mais c'est dans les commentaires sous des publications qu'on peut observer. Il y a le meilleur et le pire, hein, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. De quelle façon ces gens-là pensent pouvoir exprimer un commentaire comme celui-là? Est-ce que c'est sous le couvert de l'humour ou du sarcasme? Je sais pas. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais il reste que ça laisse des traces. Et sur sur la forme écrite que permettent les commentaires sur les réseaux sociaux, on ne voit pas l'intention de l'auteur. On ne voit pas si c'est de l'ironie, du sarcasme, une joke, ou si c'est vraiment un commentaire comme « bon, ben je vais les remettre à leur place une fois pour toutes ». Tu sais, c'est difficile à déceler, mais cette montée-là, cette augmentation des commentaires, bon, là, il y a le chercheur Francis Dupuy-Déry là, dans le dossier de la presse qui l'exprime. Il y a une étude au Québec, mais on le voit aussi aux États-Unis. Et le GRI, qui est un organisme de sensibilisation, notamment dans les écoles, sur l'homosexualité, l'orientation sexuelle, avait observé ça dans les questionnaires qu'ils font passer aux élèves à la suite d'interventions dans des écoles. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le pourcentage d'élèves qui disaient éprouver des malaises face à l'orientation sexuelle d'un ami ou d'un camarade de classe qui est gay, en 2023-24, c'était 40%, alors qu'en 2017-18, on était à 25%. Donc, c'est passé de quoi, là, entre 2018 et 2023, puis c'est pour ça que l'explication ou l'hypothèse de la pandémie apparaît comme étant révélatrice là-dessus. Mais il y a nettement un recul. Là, moi, j'ai des témoignages de personnes qui, justement, pour le GRI, font des témoignages dans les écoles, puis ils se font envoyer chier carrément. Là, ils se font... ouais. Alors que la personne prend la peine, ou un prof prend la peine d'appeler une ressource pour dire, bon, regardez, gang, ensemble, on va démystifier un peu c'est quoi l'homosexualité, l'homophobie, l'orientation de genre, l'identité sexuelle, puis du moment qu'on a une discussion qu'on voudrait civiliser, il y a des gestes d'irrespect et des gestes de violence envers ces intervenants-là. Moi, ça me dépasse complètement.
En effet, et Martin, je conclue l'entrevue là-dessus et merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Je pense qu'en tant que parent, on a énormément de parents à l'écoute. On a un travail à faire sur ce que nos enfants mettent la main sur les médias sociaux, mais surtout d'éducation. Moi, très jeune, à un très jeune âge, mes gars de 16 et 18 ans, on a parlé d'homosexualité. On a même écouté une télésérie qui était Le Chalice, je me souviens bien, où justement, c'était deux hommes qui étaient... Et puis, on a parlé ouvertement d'homosexualité. On leur a montré ce que c'était. On leur a parlé des bénéfices pour les personnes dans qui vivent justement leur relation amoureuse. Et eux, justement, sont sans tabou face à l'homosexualité. Donc, faut vraiment prendre nos responsabilités en tant que parents.
Il faut souhaiter que beaucoup de parents imitent ce que tu as fait avec tes enfants, Jeff. C'est la base, parce qu'on se retrouve après ça à l'école ou dans un contexte social où là, on est en conflit avec d'autres mentalités, d'autres idéologies, et il faut pouvoir garder les valeurs qui nous auront été inculquées dès le plus jeune âge.
Martin Francœur, chroniqueur pour Le Nouvelliste, qui partage également ses chroniques à travers les coop de l'information. Merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui et on se reparle prochainement.
Merci pour l'invitation. Bonne
fin de plaisir. Salut Martin. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était vraiment une très, très, très belle conversation avec Martin Francœur. Il y a également des textos qui sont rentrés où on parle que justement l'homophobie est créée par les extrêmes des deux côtés. Tu sais, puis souvent, on dit ça quand il y a justement la parade de la fierté.
Ouais.
Où ça n'aide pas la cause tout le temps des homosexuels parce qu'il y a des gens qui paradent de façon trop extrême. Je suis entièrement d'accord avec ce texto-là.
Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut plus être... dérangeant pour certaines personnes, parce que là, t'es comme dans quelque chose qui peut être dérangeant. C'est là, il y a une sexualité aussi là, qui est attitrée à tout ça. Est-ce un problème de société? Est-ce un problème personnel qu'on a dans notre... Peut-être, mais de là à mettre toutes les choses et toutes les œufs dans le même panier, c'est peut-être aussi un problème.
Exactement.
On doit être conscient.
Quelle bonne idée de Jonathan par texto et continuer à réagir au 418-971-1021. J'aurais peut-être une suggestion, une fête de la tolérance. Hein, j'adore.
Je me demande comment on va la mettre en place puis comment est-ce qu'on pourrait la fêter.
On brainstorm là-dessus. On va faire ça, nous autres, à Boulevard, la fête de la tolérance.
Écoute, il y a des fêtes sur n'importe quoi. Il y a la fête du café pour qu'on ne pourrait pas avoir de fête de la tolérance.
Une journée de la tolérance,
au pire. Une journée de la tolérance.
Ah oui, on milite là-dessus. On réfléchit, Pascal CV.
On en jase. Juste...
On passe, même si on est vendredi, il faut parler de nos problématiques de société, Pascal CV.
Bien, on est là pour ça, honnêtement. Dans On en jase, c'est ça, on parle de ce qui vous concerne à chaque jour.
Et en plein ça, et on passe d'une problématique de société à une autre. Si on vient de parler d'homophobie chez les jeunes, on va parler de violence en milieu scolaire avec notre prof préféré, Sylvain Duclos. Sylvain, comment vas-tu?
Hey, ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Sylvain, juste en commençant, pas que je l'oublie, Farnell Morissette, salut.
Salut à Farnell encore une fois.
Il est en studio avec nous juste avant. Sylvain, j'ai vu ta publication de ce matin où tu as repris essentiellement l'article du Journal de Québec où justement les politiciens ont fait une offensive hier pour qu'il y ait des mesures contre la violence en milieu scolaire. Et j'ai surtout lu les commentaires. J'ai été vraiment sidéré par les... Tu sais, il n'y a rien de mieux que le terrain, hein? Fait que j'ai été sidéré par les exemples que malheureusement tes collègues enseignants et tes collègues aussi éducateurs spécialisés vivent dans les écoles. Mais il y a un point que j'ai trouvé qui se ressemblait, c'est-à-dire les directions d'école qui n'ont plus de pouvoir. Parle-nous de ça.
Ouais, puis écoute, dans les commentaires qu'il y a eu sur ma publication d'hier, je te dirais que tu n'as rien vu parce que moi, j'ai reçu des dizaines de messages privés parce que les enseignants, les TS, peuvent pas parler non plus en public, même sur Facebook. Donc, ils n'osent pas parler puis écrire. Écoute, oui, effectivement, ça ressort beaucoup. Moi, ce qu'on me nomme, c'est que bien souvent, les directions d'école, les centres de services scolaires minimisent les impacts de cette violence-là et renvoient la balle aux enseignants, aux éducateurs et ne passent pas à l'action, malheureusement. On dirait qu'on n'a pas cette marge de manœuvre-là qui nous est permis par la loi sur l'instruction publique. On a peur bien souvent d'avoir des réprimandes de la part du protecteur de l'élève, hein, protecteur national de l'élève.
Ça oui, puis faisons aussi, une parenthèse là-dessus, peur... Sylvain.
Excuse-moi, Pascal.
Oh, on m'entend mal quand on est sur Zoom, je m'excuse, mais parlons-en du protecteur de l'élève, parce que une nouvelle mesure qui a été mise en place dans les dernières années, vous dites on a peur de ça. Comment ça s'est manifesté dans votre quotidien quand il y a des plaintes comme ça où il y a de la violence, vous essayez de faire votre gros possible?
Bien, en fait, moi, ce n'est pas quelque chose que je vis dans mon milieu, sauf que moi, ce qu'on me nomme, c'est que dans certaines écoles, bien, le protecteur national de l'élève, au final, il y a eu des événements de violence, la direction a agi, puis moi, ce qu'on m'a nommé, c'est on nous a ramené, on nous a dit, bien, l'élève, il doit être scolarisé, donc trouver une solution dans les milieux. Mais au final, on a des jeunes qui sont désorganisés, qui n'ont pas de soutien familial, on n'a pas non plus les services sociaux aux alentours, la DPJ est très limitée sur ce qu'elle peut faire, puis au final, bien, on les gère dans les classes, puis les jeunes sont violents envers le personnel, mais sont aussi violents envers les autres élèves, puis ça, on en parle très peu.
T'ouvre justement une belle parenthèse, je trouve, avec le suivi parental, parce que ça ressortait beaucoup aussi dans les commentaires. Ouais, mais tu sais, la pomme tombe pas loin du pommier, hein? Le parent m'écrit en lettres majuscules, il m'envoie promener, il dit que je compte démentrer sur son enfant. En tant que parent, il faut se parler, là. Faut respecter nos enseignants, ce qu'ils voient dans la classe. C'est vrai.
Bien, c'est certain qu'il y a une petite partie des parents. Des fois, on dit les parents, mais souvent, c'est une petite partie des parents qui peuvent être problématiques, qui minimisent tout ce qui se passe puis qui, effectivement, ne travaillent pas du même côté de l'école. On a aussi des parents qui sont dépassés. Puis il y en a aussi qui travaillent simplement vraiment beaucoup trop et qui ont été très peu présents pour leur enfant. Quand tes deux parents travaillent 45, 50, 60 heures semaine, ben ça se peut que le jeune passe plus de temps sur les iPads puis il se garde par lui-même. Mm-hmm. Puis au final, ben il n'y a pas eu beaucoup d'interactions positives. Puis ça se peut qu'il déborde dans un milieu où est-ce qu'il se sent safe. À l'école, bien souvent, les jeunes se sentent safe, donc ils débordent à l'école et pas à la maison.
Mais ça, lors du rapport, Laurent, puis je fais peut-être du pouce là-dessus, Régine Laurent, qui s'était attaquée un peu aux enfants de la DPJ, dans le bon sens du terme, dans le sens où elle disait, ils arrivent en classe, ça se parle pas, les intervenants peuvent pas dire de l'info aux enseignants, les enseignants peuvent pas vraiment parler aux parents, etc. Il y a comme un canal de communication qui était coupé. Donc, parfois, tu avais de la violence à l'école et tout ça, puis l'enseignant, sans le savoir, bon, augmentait cette violence-là parce que, bon, il intervenait de façon coercitive. Fait que là, l'enfant était à la maison, dans sa famille d'accueil et à l'école, constamment réprimandé, puis ça faisait en sorte qu'il devenait une genre de poule de colère puis d'agressivité. Puis Régine Laurent avait dit, si au moins ces gens-là pouvaient se parler, peut-être qu'un enseignant pourrait faire « Ah, OK, ouais, ben là, il y a eu telle violence à la maison hier soir. » Au lieu de l'envoyer à tel endroit ou d'être peut-être un petit peu plus coercitif pour s'en faire là, on va agir d'une autre manière. Ça vous aiderait-tu si on le mettait en application?
Ah ben, je suis vraiment content que tu le nommes parce que c'est quelque chose qu'on nomme dans les milieux, à savoir que les enseignants, on n'est pas officiellement on n'est pas des professionnels, donc on n'a pas accès à certaines informations qui sont confidentielles, entre autres avec la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Et il y a des choses effectivement qui se font et que l'on ne sait pas. Et dans plusieurs situations, le fait de savoir qu'est-ce que l'élève a vécu ou vit actuellement à la maison, ça pourrait nous aider aussi à mieux travailler avec les élèves. Bien entendu, le fait qu'un élève vive des choses difficiles à la maison n'excuse pas tout, n'explique pas tout. Il faut aussi avoir un cadre pour savoir vivre en société, mais au moins avoir ces informations-là, ça pourrait effectivement aider.
Puis probablement aussi pour vous, le fait de le savoir, on est tous humains. Vous avez tous la broue dans le toupette. Vous êtes tous écœurés à un moment ou à un autre. Vous avez toutes des vies difficiles parfois. Peut-être vous donnerez un peu plus de patience et de compréhension, d'empathie envers les jeunes?
Bien, c'est certain. On travaille d'abord et avant tout avec le lien et avec l'empathie avec nos jeunes de toute façon, mais lorsqu'on sait qu'un jeune vit des choses difficiles à la maison, ben on utilise nos petites passes droits un peu plus, puis on lui donne un petit peu plus de lousse, effectivement.
Prof Duclos, parmi les pistes de solutions explorées hier, les politiciens parlaient, et la Fédération autonome de l'enseignement aussi, de valoriser davantage la profession d'enseignant. J'ai deux questions, dans le fond. Est-ce que tu es d'accord avec ça et comment on fait ça?
Ben, je suis d'accord avec le fait de valoriser. Je me questionne jusqu'à quel point est-ce que le politique peut valoriser la profession enseignante. Cependant, ça passe par plein de mesures. Ça passe par le respect de l'expertise des gens sur le terrain. Le fait de les écouter, moi, ça me fait beaucoup rire.
Oui, parce que vous n'êtes pas écouté des ministres, mais après ça, on va dire « Hey, les enseignants, c'est tellement important, mais pas assez important pour qu'on vous écoute avec des solutions sur le terrain qui fonctionneraient. »
Ben moi, écoute, je passe mes semaines à parler de solutions puis de choses qui vont pas sur le terrain, puis il n'y a jamais personne qui m'a parlé. Fait que je peux voir qu'on nous on écoute pas bien.
Non, c'est ça, exactement, ça là. Ça fait aucun sens. On vient de parler d'homophobie, prof Duclos, je terminerai avec ça. Est-ce que tu en vois, toi, de plus en plus dans les écoles?
Je te dirais qu'on en voit, on a une recrudescence, on en voit un peu plus qu'on en voyait avant. On voit aussi plus de jeunes qui s'affirment haut et fort très tôt. Je trouve ça beau que des jeunes s'affirment très tôt. Mais c'est sûr que ça fait réagir d'autres jeunes. Donc, je pense que ça contribue au fait qu'on ne voit plus de situations d'homophobie. Cependant, je trouve ça quand même beau que les jeunes s'affirment très rapidement comme ça. Puis, ça va les aider toute leur vie.
Sylvain Duclos, c'est toujours un bonheur de te parler parce que nous, moi et Pascal, contrairement au ministre de l'Éducation ou à la ministre de l'Éducation, on aime ça parler avec le monde sur le terrain.
Oui, beaucoup plus.
Qui ont les deux mains dedans, là. On trouve qu'on parle de problèmes plus réels que quand on parle aux gens en haut de l'organigramme.
Ah bien, c'est toujours très apprécié de pouvoir vous parler.
Cool, on se refait ça bientôt, prof Duclos.
Merci à vous, bonne journée.
Salut, bon après-midi, bon week-end. Sylvain Duclos, vous pouvez suivre sur les médias sociaux. Il est extraordinaire, Pascal. C'est un enseignant dévoué pour ses élèves. Puis vraiment, quand il parle, là, c'est parce qu'il a vu des choses sur le terrain. Intéressant à la fin sur l'homophobie, quand il dit « oui, il y en a plus ». Mais il y en a plus aussi qui se déclarent homosexuels à un plus jeune âge. Donc, ça fait plus réagir. C'est le fun. C'est pour ça que c'est le fun de parler au monde sur le terrain.
Puis, dans le fond, Sylvain Duclos a commencé à faire des capsules pour les jeunes. Parce qu'il disait, c'est comme ça, je vais être capable de les rejoindre. Comme ça, je vais parler aux parents aussi, parce que ça semble être la nouvelle façon. Quand tu dis que quelqu'un sur le terrain est beaucoup plus ferré pour comprendre la réalité aussi, c'en est un autre exemple.
Hey, clairement. Pascal, sais-tu quoi? Notre idée de faire une journée là, de la tolérance, ça existe depuis 1996. C'est Charles-Étienne qui nous a écrit ça. C'est le 16 novembre.
On l'a pas fêté souvent.
Donc là, il faut qu'on entoure ça sur le calendrier. Le 16 novembre, on fait une émission spéciale Tolérance en Angers.
Parfait. 16 novembre, c'est un rendez-vous.
16 novembre 2026, ce sera un rendez-vous.
Mais déjà, tu tolères Yann chaque matin, Jeff.
Qu'est-ce que ça dit?
Déjà, tu tolères Yann chaque matin.
Ouais,
dans le Marceau.
C'est vrai.
C'est bon, c'est ça. Vrai. Puis moi, je le tolère dans le Marceau le soir.
Ouais, en effet.
On est quand même tolérant.
On est
sur la bonne
tolérant.
Voie.
Parlant de tolérance, et ça, c'est un gars qu'on tolère tout le temps parce qu'il est toujours intéressant. Après cette courte pause dans un instant à Boulevard 102, on en jase, Pascal, c'est Alex Laramé. Le Canadien a joué hier soir. Le hockey de la Ligue nationale est recommencé.
Cages au sport roulent.
J'étais là hier. C'était bondé. La bière, les ailes de poulet. On en parle avec Alex Laramé dans un instant. Boulevard 102.
On en jase. À Boulevard 102.
13h12 à l'émission Nangeas sur Boulevard 102.1. Cette radio d'extrême centre. 418-971-1021 pour nous rejoindre. BLVD.fm, ce sera les meilleurs moments de notre émission immédiatement après l'émission qui vont être déposés là. Et c'est la web radio. Venez nous voir également sur twitch.tv/BLVD/FM et je ne le dirai jamais assez. Téléchargez notre application BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Vous pouvez nous écouter où que vous êtes. Pascal, écoute bien ceci.
Pajot devant Dano. Et qui aura la rondelle finalement, c'est Holmstrom. Et Pajot qui s'amène. Pajot devant le filet, la fête de tirer le but! Jean-Gabriel Pajot marque le but gagnant et les Islanders, deux fois, sont venus de l'arrière et vont quitter le Centre Bell avec la victoire au grand sourire de leur entraîneur.
Jean-Michel Pajot.
Jean-Gabriel Pajot.
C'est pourquoi c'est la première fois que j'entends ce nom-là?
C'est pas un joueur qui marque nécessairement beaucoup de buts, mais c'est un gars qui roule sa bosse dans la Ligue nationale. Et justement, pour en parler avec nous, on a notre chroniqueur sportif, également journaliste au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Alex, t'es-tu remis de la défaite?
Ben oui, écoute, une défaite en prolongation quand même. On va chercher un point. Là. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait définitivement pu être mieux quand même.
Ah, exactement. Du côté du Canadien, on a échappé deux avances, ce qui a fait en sorte que Patrick Roy et sa bande des Islanders est reparti tout sourire. Mais on a eu tout qu'un spectacle, Alex, parce que Noah Dobson, l'ancien des Islanders, a marqué deux buts contre son ancienne équipe. Les Islanders ont échangé Dobson au Canadien parce qu'il venait de repêcher le jeune Matthew Schaefer. Et à 18 ans, il nous a encore écarquillé les yeux, avec lui aussi une performance de deux buts.
Ouais, Dobson qui marque deux buts contre son ancien club. On dirait que c'est souvent quelque chose qu'on voit, les matchs revanches, là, ouais. Lorsque les gars affrontent leur ancienne équipe. Souvent, ils ont des très bonnes performances. Puis ça a été le cas de Noah Dobson, qui n'a pas hésité à prendre des tirs, hein, notamment son premier but. On avait une force d'attaque chez le Canadien, mais il a décidé de prendre le tir. Ça a été la bonne décision. Il a marqué. Puis oui, tu l'as dit, je pense que ce qu'on retient du match d'hier, c'est Matthew Schaefer. Il a 18 ans, là. Puis un vrai 18 ans, là, il va seulement avoir 19 ans au mois de septembre. Le kid est impressionnant. Puis c'est ça que je parlais avec mes amis hier, c'est un vrai premier choix au total. Là. C'est un gars qui a transformé la franchise des Islanders parce que, entre toi et moi, là, ça s'en allait nulle part, les Islanders. Ils ont une équipe remplie de vétérans. Si tu regardais leur line-up, tu sais, Bo Horvat, Mathieu Bartel, c'est bien, mais après ça, c'est des Jonathan Drouin, des Endersley, des Simon Holmstrom, Cal McLean, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Mais ce gars de 18 ans-là a redonné une fougue à cette équipe-là qui était plus du côté vétéran, puis deux buts pour lui hier. Non, ça a été toute une performance du jeune.
Même impact que Cal McCarr pour son équipe.
Ah ouais, selon moi, on est dans la même trempe de défenseurs. Là. C'est un gars, évidemment... Il y a eu les Jeux olympiques, on regarde ça. Est-ce qu'on l'aurait pris avec Team Canada? Peut-être, mais bon, à 18 ans, c'est un petit peu jeune, mais c'est sûr et certain qu'en 2030, il va être de l'équipe canadienne. Il va avoir 22 ans, il va être dans son prime. Déjà 4 années qu'il va avoir sous la cravate. Mais non, définitivement, c'est le genre de défenseur, justement, qui change complètement une organisation, comme tu l'as dit, comme Makar a fait avec le Colorado.
Parle-moi pas là-dessus. Hier, j'étais avec des chums à cage au sport. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, on s'est passé de Schaefer, on s'est passé de Connor Bedard, on s'est passé de Wyatt Johnson, puis on a marqué un but en finale.
Non, c'est exactement. surtout quand tu regardes la brigade défensive qu'on a amenée, tu sais, j'ai rien contre des Perico puis des Sanheim, mais on a vu Schaefer hier, c'est pas le même genre de défenseur du tout. Non. Puis Schaefer, selon moi, est dans une qualité puis une classe à part là, de ces défenseurs-là.
Canadien va jouer samedi au Centre Bell contre les Capitals de Washington avant un voyage dans l'Ouest américain. Tu t'attends à quoi du tricolore?
Ben écoute, selon moi, il faut aller chercher les deux points en fin de semaine. On est à domicile, tu l'as dit, après on quitte pour un voyage. Ça va être Dobesch qui va être devant le filet, là. Ça n'a pas été confirmé par le Canadien, mais Saint-Louis a dit plus tôt cette semaine qu'il voulait donner de l'action à ses deux défenseurs, à ses deux gardiens en fait, pour les remettre dans le bain là, après la pause. Fait que c'est sûr que ça va être Dobesch. Selon moi, c'est primordial d'aller chercher les deux points, mais les Capitals, c'est difficile. Hein? Évidemment, on se souvient de la série l'an passé, ils nous ont battu en 5. On dirait que dans les dernières années, tu sais, c'est un club physique, là, les Capitals, donc ce sera pas facile, mais il faut que le Canadien donne tout. Puis hier, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. C'est le 5 contre 3 qui a fait très mal. Après, on a donné un but en fin de rencontre. Tu sais, le tir a dévié sur Endersley directement comme sur son chest au final. Qu'on a joué un petit peu de malchance aussi en fin de match. Mais contre Washington, il faut sortir le gaz au bout, puis faut aller chercher 2 points.
Excellente nouvelle pour la ville de Trois-Rivières. Le Canadien va présenter un match préparatoire le 21 septembre prochain contre les Sénateurs d'Ottawa. La cabane à 5000 va être remplie à pleine capacité.
Ben ouais, c'est ça, à Trois-Rivières, ils ont un nouvel amphithéâtre là-bas, ce qui paraît, c'est super beau, là, j'ai jamais été.
Vraiment, je suis allé une fois voir les Lions de Trois-Rivières, c'est vraiment beau. Ben écoute, c'est pour les gens de Québec, là, c'est un centre Vidéotron, mais à 5000 places, mais c'est fait exactement pareil.
Ah, ben tu vois, ben c'est ça, fait que ça va donner un bon avant-goût, justement, pour les gens de Trois-Rivières, là, de pouvoir voir le Canadien qui va se déplacer là-bas. Puis je trouve ça le fun que le Canadien accepte, justement, d'aller dans des places de même. Je pense que c'est bon pour le hockey d'essayer de développer des marchés, parce que Trois-Rivières, c'est pas très loin de Montréal, hein, fait que si on peut montrer un peu le genre de joueur, ouais, ça va inciter justement aux gens de descendre à Montréal. Fait que non, super belle opportunité pour les gens de Trois-Rivières.
Vraiment, Alex, on parle du mal-aimé d'Équipe Canada qui, hier, a connu une excellente soirée.
With backside coverage on Byfield, the puck comes free to McDavid, still sitting on 99 points. Drop pass, Draisaitl shoots and scores. And there's 100 for McDavid and 30 for Draisaitl.
Déjà 100 points pour Connor McDavid, déjà 30 buts pour Leon Draisaitl. Le monstre à deux têtes a frappé, victoire de 8-1 des Oilers sur les Kings hier.
Ouais, c'était une totale dégelée là, des Oilers contre les Kings. Là, déjà une 9e saison de 100 points là, pour Connor McDavid qui fait 100 points en 60 matchs.
C'est hallucinant.
On peut questionner son habileté de gagner. T'sais, oui, il a perdu 2 fois en finale de la Coupe Stanley, pas la médaille d'or, mais ça reste le meilleur joueur de hockey sur la planète en ce moment. Selon moi, c'est même pas proche. Ce qu'il fait sur la glace, il n'y a personne qui est capable d'imiter ça. Il y en a qui parlent de Gavin McKenna là, au prochain repêchage. Je vais le croire quand je vais le voir. Là. Mais non, définitivement, McDavid est capable de transporter un club, mais dans les grands moments, il manque encore un petit quelque chose. Mais c'est un sport d'équipe, hein, fait qu'il peut pas le faire tout seul. Mais hier, super belle performance. Puis, en tout cas, je ne souhaite pas une autre série Oilers-Kings, parce que si ça a l'air de ce que ça avait l'air hier, je pense qu'on peut miser notre argent sur Oilers.
J'ai l'impression que les Kings seront tout simplement pas les séries. Ça pourrait être une série Oilers-Ducks Anaheim. Par contre, ça serait très intéressant. Ça serait très offensif comme série. On a parlé beaucoup d'équipe Canada en disant « Ah, on aurait aimé Matthew Schaefer. Ah, les gens ont critiqué trop Connor McDavid. » Mais les journalistes canadiens n'ont pas été tendres envers Austin Matthews et Brady Tkachuk. On a pratiquement forcé Brady Tkachuk à s'excuser pour les commentaires de Donald Trump. Écoute, il peut pas contrôler le président américain. Puis on a milité pour enlever le C de capitaine Austin Matthews. On va-tu trop loin du côté des journalistes canadiens?
Mais moi, je pense que oui, parce que, tu sais, Austin Matthews, l'étiquette qu'on lui a collée, c'est justement que c'était pas un leader, il était pas capable de gagner. Mais là, il a gagné la médaille d'or avec Team USA. Fait que je pense que cette étiquette-là, ça va être à revoir un petit peu. Puis c'est difficile, hein? L'étiquette de capitaine, c'est vraiment quelque chose qui est dans la chambre. Hein? Fait que nous, en tant que partisans, c'est difficile de savoir qui est un bon ou mauvais capitaine. C'est tous des trucs qu'on ne voit pas. Fait que moi, de voir les médias attaquer sur ce point-là, moi, je trouve que c'est vraiment mal placé. À moins qu'il y ait des informations comme quoi, justement, il ne mérite pas ce C-là. Mais avant le C à Toronto, il était à John Tavares. Il est resté avec l'équipe. On l'a donné à Matthews. Ça n'a pas créé de commotion à l'intérieur du vestiaire. Fait que visiblement, c'était une décision qui était appréciée des joueurs aussi. Puis du côté des Tkachuk, ben écoute, Brady Tkachuk, son désavantage, c'est qu'il joue au Canada. Matthew Tkachuk n'a pas dealé avec ça maintenant qu'il joue plus avec Calgary. Mais les Tkachuk, ils sont polarisants. Hein, on va les haïr, on va les aimer s'ils jouent pour notre club. Là, les journalistes ont décidé de s'attaquer à lui, justement, vu qu'il joue au Canada et que c'est quelqu'un de très, très, très polarisant. Ça fait les manchettes. Mais selon moi, il faut se calmer. Là, je veux dire, il était avec son pays. Après ça, il y a tout le côté politique. Là, mais bon, moi, j'ai envie de séparer la politique et le sport.
Parce que Nathan MacKinnon aurait gagné la médaille d'or et aurait fêté. Mark Carner aurait appelé dans le vestiaire et aurait dit « Ah, ils ont battu les Américains! » Il n'y a pas un journaliste au Colorado qui aurait fait une histoire avec ça. Là,
ben non, exactement. T'sais, c'est vraiment pas une tempête dans un verre d'eau, mais c'est vraiment un truc canadien que le hockey prend beaucoup d'ampleur puis qu'on décide de fouiller les fonds de tiroir pour trouver des histoires. Là. Mais selon moi, regarde, c'est chose faite. Ils ont gagné la médaille d'or. Ils ont fait leur truc avec Trump. C'est leurs affaires. Ça les regarde. Maintenant, on se concentre sur le hockey de la Ligue nationale. Puis si j'étais un partisan d'Ottawa, ben j'encouragerais Brady Tkachuk à bien performer pour mon club au lieu d'y taper sa tête.
Exactement. Alex Laramée, toujours un bonheur de te parler. On se reparle lundi pour parler du Canadien, du match de samedi et de la semaine qui s'en vient.
Certainement, je vais être là.
Excellent, salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramé, excellent journaliste au 99.5 Montréal qui fait des chroniques sportives dans l'émission On en jase. Pascal, avant de recevoir nos deux invités où on va parler d'itinérance, parce que croyez-le ou non, ça explose encore plus à Saint-Roch, on va recevoir Marie Liplante qui est coordonnatrice pour le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Frédéric Rivet, qui est organisatrice communautaire. Qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, on s'entend, on est dans le procès de cet homme qui, au Palais de justice de Québec, était coach de cheerleading. Mm-hmm. Alors, on va avoir encore plus d'informations au courant des prochains jours, mais il y avait, dans les dernières heures, le témoignage d'une présumée victime. Alors, elle s'est dit... présumée victime de deux coachs à 14 ans, à ce moment-là, au moment des faits. Elle dit que sa première fois... où elle a eu une relation sexuelle, était finalement dans un trip à trois. On a eu Pierre-Paul Biron un peu plus tôt, oui, à l'émission. Ça va être possible de reprendre l'entrevue au site de blvd.fm. Mais c'est une affaire que tout le monde suit, je pense, avec beaucoup d'assiduité. Sinon, sondage réalisé pour le Parti québécois. On dit que les Québécois veulent réduire l'immigration. Alors, ce serait une tangente effectivement politique que tout le monde en parle. C'est un sondage qui a été brandi par le PQ aujourd'hui. Alors, c'était dans la nouvelle. Un petit compte-rendu aussi de ce qui s'est passé hier contre une frappe contre le BFM à Montmagny. Il y a eu 10 arrestations, de la drogue et des armes de saisie. C'est assez gros comme frappe hier qu'on a réussi à faire contre ce réseau-là, la Blood Family Mafia. Pas moins de 10 suspects qui ont été arrêtés grâce à l'intervention d'environ 50 policiers. Je pourrais faire un clin d'œil aussi à Bill Gates, qui était du côté de la commission d'enquête de l'affaire Epstein. Il dit « Je n'ai rien vu, je n'ai rien fait » et on réclame encore le témoignage de Donald Trump à ce niveau-là, après celui d'Hillary Clinton hier et celui de l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, aujourd'hui. Peut-être que je pourrais terminer avec cette nouvelle-là. Le Nord est fort, fort, fort intéressant pour les États-Unis et même bien d'autres au niveau de l'international. Jeff Bezos et Bill Gates s'intéressent aux minéraux de la Baie James et du Nunavik. Donc, ils ont investi dans une société d'exploration de la Silicon Valley et on cherche du cobalt et on cherche du lithium. L'année passée, je revenais ou je partais là, pas mal dans ces eaux-là au Nunavik, mm-hmm, et j'ai une journée complète de conseils de bande où on parle de ça parce qu'on veut, oui, avoir une mine qui va aller extraire, parce qu'on est très riche au niveau de ces minéraux-là dans le nord du Québec, mais on est un peu en urgence parce que les autres s'y intéressent. Comment est-ce qu'on fait ça, mais en même temps, on préserve le territoire? C'est une grosse question en ce moment, Nunavik.
En effet, ça va être très, très, très intéressant à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Après la courte pause, on parle de cette explosion. Oui, vous comprenez bien, explosion à nouveau d'itinérance dans Saint-Roch. Plus de 50 personnes par soir ne trouvent pas place dans les refuges qui sont à pleine capacité. Donc, couche dehors en plein hiver. Marie Liplante, coordonnatrice pour le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, c'est-à-dire le RAIC, sera avec nous. Ainsi que Frédéric Rivet, organisatrice communautaire. C'est dans un instant, on en jase sur Boulevard 101. Il est présentement 13h30. Vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase, où on jase des enjeux de Québec et on va justement parler d'itinérance dans quelques instants parce que ça déborde à Saint-Roch, malheureusement. Ben oui, on n'est pas en train d'améliorer la situation, malheureusement, la situation s'empire. Mais avant, Pascal, on va se faire plaisir, OK? T'es prête?
Oui.
T'es sûr? Écoute bien ça.
Ben oui, je suis prête pour toi.
Ça me rappelle mon adolescence.
Étrangement, la mienne aussi, puis on n'a pas le même âge.
Non. Dans le temps que ma mère me disait, vas-tu faire des mauvais coups dans la rue? Ben non, mais...
Je pense que c'est la phase émotive.
Ouais, exactement. Ah, pas le choix de laisser ce bout-là.
Oui.
Ça te plaît, auditeur de Boulevard? Ben, sache qu'à 15h samedi et dimanche, non, ça sera pas le rack à mat. Ça va être les Colosses du rock avec notre chum Colosse qui remplace Matt Marcotte pour les deux prochaines semaines. Du Rage Against the Machine, du System of a Down. Bref, On n'a pas mis une bûche, deux bûches, trois bûches. On en a mis cinq dans le foyer. Ça va chauffer. Soyez à l'écoute des Colosses du Rock samedi et dimanche à 15h.
Puis, c'est une encyclopédie, Colosses. Oh, c'est un gars que tu vois, il est tellement doux, tellement fin. Puis là, tu te mets à parler de band, de musique, puis il s'enflamme. On est chanceux de l'avoir. Puis le boss se dit, c'est un show un peu plus edgy.
Ouais.
Ça me fait rire. Moi, je dirais, c'est un show un peu plus chaleureux dans tous les sens.
C'est un show qui bûche. Évidemment, on a le meilleur rock pour vous le week-end. Vous le savez, ça commence avec le Garage à Dan à 18h. Samedi et dimanche, dès 7h, l'émission la plus populaire chez les femmes, la fin de semaine, Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Et à 10h, c'est le Boulevard du Rock. Samedi avec Dan Caron, puis dimanche avec Colosse. Colosse fait du temps supplémentaire en fin de semaine, mais c'est pour nous offrir la meilleure musique. Puis en plus, en écoutant Boulevard, ben vous pouvez gagner vos billets pour aller voir Live et Big Rec en spectacle le 11 mars prochain au Centre Vidéotron. On a aussi des laissés-passer trois jours pour Oceaga. Coudonc, on est donc bien généreux à Boulevard 102.1. Et je vous rappelle également que le show de Live et la tournée Like a Rolling Thunder, qui est le 11 mars au Centre Vidéotron, bien c'est possible d'acheter vos billets immédiatement sur ticketmaster.ca. Assez parlé de musique, on va aller parler des enjeux de la ville de Québec et on en parle depuis plusieurs années. Malheureusement, la situation ne se règle pas. Je parle évidemment de l'itinérance au centre-ville dans le quartier Saint-Roch. On a Marie-Lie Plante, coordonnatrice pour le RAIC avec nous et Frédéric Rivet, organisatrice communautaire. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci de nous inviter.
Ça fait plaisir. Je lisais aujourd'hui sur Radio-Canada 50 personnes itinérantes par jour qui n'ont pas de place dans les refuges de nuit. Est-ce que, puis je vais m'adresser à toi en premier, Marie-Lie, est-ce que c'est le pire moment que tu as vécu dans les dernières années présentement?
Bien, c'est sûr que la crise de l'itinérance, on n'arrête pas de le dire, de le marteler, ne cesse de s'exacerber en mm-hmm. termes de volume, en termes de nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance, mais aussi quand on regarde les situations que vivent les personnes, on n'arrête pas de le dire. Ça aussi, les situations se complexifient. L'itinérance, ce n'est pas un enjeu qui se réduit seulement à l'accès ou non à un logement. C'est un paquet d'enjeux souvent. Donc, quand les gens cognent aux portes des ressources, bien, c'est des situations qui sont complexes et des besoins qui sont multiples qu'il faut répondre en même temps dans une approche globale. Donc, c'est sûr que la tendance actuellement, là, c'est ça. L'itinérance continue d'augmenter, de se complexifier, de s'ancrer. On parlait du centre-ville de Québec, mais pas que. T'sais, nous, le RAIC, on représente la capitale nationale. Ouais. Donc, on parle beaucoup du centre-ville, mais c'est important de parler aussi là, de que ces réalités-là existent dans les quartiers en périphérie du centre-ville, les banques lieu, mm-hmm. Les régions plus éloignées. On parle de plus en plus d'itinérance dans Portneuf, dans Charlevoix.
C'est fou, hein, ça a changé. À Beauport, je me rappelle, il y a 4 ans, il y a une personne en situation d'itinérance à Beauport. Puis c'est un auditeur qui, chaque fois que je le croisais, ça, c'est fascinant, cette histoire-là, il se faisait demander, avez-vous un peu d'argent, monsieur? Mm-hmm. Puis l'auditeur en question disait, oui, t'as besoin de combien? Puis la personne avait dit 20 $. Depuis 4 ans, l'auditeur croit cette personne-là parce qu'ils ont le même genre de parcours.
Oui, ils ont le même trajet.
Il donne 20 $, l'itinérant lui rembourse. Après ça, il redonne. Mais c'est toujours quelqu'un de fiable. Mais tu sais, je me souviens que cette histoire-là m'a fasciné de dire, hey, à Beauport, on est rendu avec des personnes qui ont une situation d'itinérance. Habituellement, en ville, c'est là où on les voyait plus. Est-ce que ça fluctue, le nombre de places dans les ressources en hébergement et le fait qu'elles sont pleines? Parce que je me souviens qu'avant Noël, on était quand même dans un bon moment. Là. Tout le monde avait un peu réussi à trouver sa place en temps de grand froid.
Mais ça, c'est un des enjeux dans la crise qu'on vit actuellement, il y a un gros besoin dans l'urgence. On ne peut pas le nier. Mais quand on fait appel au gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités, c'est un peu ça qu'on veut dire, intervenir en prévention, en amont, en aval, la crise. Là, c'est comme si on regarde juste la pointe de l'iceberg, on regarde juste l'urgence. Oui, justement, on module les services. Quand il y a des grands froids, vous le voyez, on est capable, mm-hmm. en collaboration avec la ville, le CIUS, les partenaires communautaires, on est capable de déployer des mesures exceptionnelles. En fin de semaine aussi, justement, il y a un annonce froid samedi, on va ouvrir un lieu de jour. Fait qu'on a des petits leviers comme ça pour mettre des petits plasteurs, si je peux me permettre cette expression-là, pour patcher ici et là. Mais on n'est pas dans une réponse qui est structurante, qui est globale, qui permet vraiment d'accompagner les gens dans une sortie de rue. C'est vraiment ça l'enjeu. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est oui, l'urgence. Oui, il faut répondre aux besoins. On veut arrêter de refuser les gens aux portes des organismes. Mais c'est important de prévenir puis d'accompagner les gens en amont, en aval. On n'arrête pas de le répéter. Puis on dit qu'on le répète jamais assez. Ouais. Mais c'est ça, c'est important de stabiliser, de consolider le filet d'urgence, d'avoir des ressources qui sont accessibles pour toutes les personnes qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin, à l'année longue. On parle beaucoup de l'hiver, mais chaque saison a ses enjeux climatiques, mais pas que. Donc, c'est important vraiment d'avoir un filet d'urgence, un filet qui est solide. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'ajouter tout le temps des places parce qu'on ne va jamais réussir à renverser la tendance. Là. Puis d'année en année, les dynamiques, l'itinérance va continuer de s'amplifier puis de se complexifier.
Moi, j'aurais le goût aussi de rajouter.
Ben oui, vas-y.
Des fois, quand il fait froid, les personnes vont vers des plans B qui ne sont pas nécessairement sécuritaires. Puis on n'a pas accès à ces données-là quand ils n'utilisent pas les ressources. Mais quand tu sais qu'il va faire moins 30, tu ne veux pas cogner à une porte qui va être fermée, malheureusement. Là. Donc, il faut aussi dire que derrière les chiffres, il y a aussi d'autres situations que notre bilan ne reflète pas, mais que la situation est beaucoup plus inquiétante là, que les chiffres.
Oui, par exemple, des femmes qui vont se retrouver à des endroits où elles pourraient être violentées ou abusées. Là. Je pense que c'est un des grands risques là, de l'itinérance. Je me trompe-tu?
Non, exactement, là, effectivement. Puis on sait aussi qu'il y a des liens entre la violence conjugale et l'itinérance, dans le sens que si on n'a pas une solution aussi de logement qui est sécuritaire, bien...
Je vais rester dans mon milieu.
Oui, malheureusement. Là, donc, on sait que ça, c'est une réalité là aussi, là, dans le milieu.
Frédéric, je connais beaucoup de gens dans le domaine communautaire. J'ai travaillé là et là, je vois le mouvement passer, le communautaire à bout. T'es organisatrice communautaire, il y a un débordement à l'itinérance. C'est rien pour aider, là. Puis t'es, franchement, le gouvernement n'aide pas du tout les organismes communautaires à l'heure actuelle, là.
Non, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il faut qu'on le nomme. Puis, tu sais, on a beaucoup vu le chiffre circuler, les 50 refus là, par jour. Il faut qu'on pense aussi à ce que ça fait sur des équipes là, de refuser des personnes là, quand t'as pas de solution à offrir à quelqu'un qui est en détresse. Puis que c'est en fait ton rôle, là, tu fais ce métier-là parce que tu as le goût d'aider, puis tout ça. Puis il y a une certaine perte de sens là, qui est associée à ça, de vivre, tu sais, d'être confronté à autant de détresse, puis en plus que ton rôle ne soit pas valorisé non plus.
Mais perdez-vous des collègues en ce sens-là? Est-ce que vous entendez des choses? Parce qu'à un moment donné, c'est comme des enseignants qui se disent, ben moi, je suis plus capable d'enseigner pour telle situation. Mais là, le fait d'être un peu confronté au fait de ne pas être capable de pas changer les choses, mais d'aider de façon convenable, ça doit décourager des gens?
Ben effectivement, là, oui, c'est des enjeux qu'on voit dans notre milieu, tu sais, puis tout ça. Oui, parce que les situations sont complexes, mais justement aussi parce qu'on sent pas que, nécessairement, du côté du gouvernement, il y a une certaine reconnaissance, en fait, de l'importance des rôles au quotidien des travailleurs et travailleuses là, du milieu communautaire. Donc oui, c'est sûr que c'est un enjeu là, qu'on vit.
Pour rappel, on parle avec Marie Liplante, coordonnatrice au niveau du regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, et Frédéric Rivet, organisatrice communautaire. On parle des problèmes d'itinérance qui s'amplifient à Québec. Si je vous disais, mesdames, on part d'une page blanche, comment on construit l'aide à l'itinérance?
Ouf, grosse question. Mais moi, j'aurais pas le goût de dire qu'on repart d'une page blanche.
OK, vas-y. Surprends-moi.
Ben, nous, on représente fièrement 48 organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, donc en prévention également. Puis il y a... T'sais, on parle du sentiment d'impuissance, puis c'est vrai, c'est une réalité qui est là, qui contribue à l'effritement de notre filet social. Mais il y a des miracles, il y a quand même de la magie, si je peux dire ça comme ça. Il y a quand même du beau qui se fait au quotidien dans l'accompagnement des personnes dans le milieu communautaire. C'est la force du milieu communautaire. C'est comme ça qu'on s'est démarqué. C'est pour ça qu'on existe aussi, pour être en mesure de s'adapter aux besoins qui sont plus spécifiques aux réalités d'une communauté, de par la proximité des organismes avec les personnes qu'elles accompagnent. Donc, il y en a des belles affaires. On les connaît quand même, les solutions, à notre niveau, dans l'accompagnement des personnes. Ça fonctionne. On a besoin d'avoir les ressources à la hauteur des besoins.
On vous écoute pas assez du côté du gouvernement.
Ben,
c'est comme,
pour le résumer comme ça.
Ben ouais, mais non, mais c'est comme tantôt, on parlait avec Sylvain Duflot, un prof, hein, Pascal, puis il disait, ben moi, je fais des capsules sur les médias sociaux, mais il n'y a jamais un ministre ou quelqu'un de politique qui m'a appelé. On n'écoute jamais les gens sur le terrain, dans le fond.
En santé, c'est la même chose, là, quand on parle aux infirmiers et infirmières.
Moi, j'aurais peut-être le goût de dire aussi là, que le communautaire fait son rôle, fait son travail, mais en fait, il faut aussi que le gouvernement fasse sa part. Puis les coupures qu'on voit en éducation, en santé, bien, ça a des effets directs, nous, dans nos milieux, avec l'augmentation des personnes qui se retrouvent là, en situation d'itinérance. Donc, tout ça est lié. Nous, ce qu'on demande, c'est au gouvernement de faire sa job, de faire sa part. Puis nous, on n'est pas là pour pallier, on est là pour compléter, en fait, leurs actions.
Là. Et là, vous voulez clairement, et on va terminer l'entrevue là-dessus, que Bernard Drainville et Christine Fréchette, les deux candidats à la chefferie de la CAQ, une des deux personnes, tiens, je m'exprime comme ça, va devenir première ministre. Donc, il faut qu'il présente un plan à l'itinérance. On n'a pas le choix.
On n'a plus le luxe d'attendre. On ne peut plus attendre. On en 2023, le 13 septembre 2023, il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est pas banal pour reconnaître la crise de l'itinérance. Puis on attend encore les mesures qui vont être en mesure de répondre à cette crise-là. Fait que oui, c'est sûr que c'est un de nos cris du cœur. On n'a pas de temps à perdre. On peut pas attendre après un budget. On peut pas attendre après des élections. On faut arrêter de faire de la politique avec l'enjeu de l'itinérance, même si c'est un enjeu qui est politique quand même. Mais on peut plus. C'est, on parle de vie, on parle de trajectoire de vie, on parle des conditions de vie des personnes,
on parle de
nos communautés, on parle de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos familles, de nos voisins, de nos voisines, de nos concitoyens, concitoyennes qui font partie intégrante de nos quartiers puis de notre filet puis qui ont quelque chose à apporter aussi dans notre société qu'il faut mettre en valeur aussi. Là,
Tellement d'accord. Marie Liplante, Frédéric Rivet, les chaises sur lesquelles vous êtes assis seront toujours disponibles. Donc, quand vous avez des messages à passer à nos politiciens, passez par nos ondes. Super, hein, Pascal? On leur offre ça. Hein?
On espère, en fait, que ce sera entendu.
Ben, moi, j'espère qu'ils ne viendront pas se rasseoir trop souvent. Ça va vouloir dire que le gouvernement avance. Ça va être positif.
C'est ce qu'on souhaite aussi. Même
sommet de l'itinérance en 2024. Le gouvernement a dit, je vais écouter les villes. Pas certain.
Non. Où sont les moyens pour? C'est vraiment particulier.
Exactement. Il y a des problèmes de circulation, Pascal Sévin.
Oui, je vais en mentionner un. En fait, c'est sur Duplessis Nord à la hauteur de l'autoroute 40, la voie droite qui est bloquée. C'est à la fin de l'accès qui provient de l'autoroute 40 qui est partiellement entravée.
On termine l'émission. On en jase et la semaine en parlant géopolitique parce qu'il y a une grosse menace des Américains envers l'Iran. Est-ce que les États-Unis vont attaquer l'Iran ce week-end? On en jase avec Éric Ouellet dans un instant.
Jusqu'à 14h. On en joue.
13h48 minutes. Ton émission d'actualité du midi. On parle des grands enjeux de Québec. On parle aussi des enjeux internationaux. C'est ce qu'on va traiter dans quelques instants avec Éric Ouellet, professeur titulaire au département des études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Mais avant, je t'invite. Parce que le Canadien de Montréal a recommencé à jouer hier. Puis là, tu te dis, éclat, il me manquait. Puis j'aime ça, moi, mettre les patins. Bien, inscris-toi à la classique annuelle Boulevard qui va prendre place le 19 mars prochain, 19h, au Centre de glace Intact Assurance. C'est quoi la classique annuelle? C'est notre version populaire de la Winter Classic. C'est une équipe de ligue de garage qui va venir affronter les gens de Boulevard 102.1. L'an passé, les Icemen de Saint-Isidore en ont mis plein la vue. Ils sont arrivés en pantoufles de Fentex avec un chrome de taureau. Ils avaient kidnappé le maire, puis ils ont dit « Let's go! » On s'en va clencher l'équipe de Boulevard et ils l'ont emporté 4-3 en prolongation.
On a eu du gros, gros fun.
Exactement. Donc, on s'attend à rien de moins avec Dominique Desnoyers, assistant capitaine de l'équipe scène finale, qui vont entrer dans la légende BLVD et repartir avec des chandails d'hockey grâce à Nagano. L'équipe de Dominique Desnoyers, c'est des chums un peu overweight, qui prennent de l'âge.
Attends. J'espère que c'est eux qui ont dit ça.
Oui, exactement.
C'est pas toi qui dis ça.
Non, okay. C'est eux. Prennent de l'âge. Ils jouent le mardi soir à l'Aréna Saint-Damien de Bellechasse dans la prestigieuse Ligue Carl Boucher. Carl, c'est d'ailleurs un joueur, entraîneur, directeur général puis responsable des gourdes d'eau de l'équipe. Il en fait-tu des postes, ce Carl-là?
Il doit était pas être payé en plus. On doit être bénévole.
Ah, on doit être pas mal bénévole. Donc, une fois de plus... une fois par année, le club participe aussi à la classique Bob Bissonnette et trouve le moyen de perdre dans l'Atlas la moins forte du tournoi. Donc, l'équipe BLVD, préparez-vous. Vous allez vous faire clencher le 19 mars à 19h. C'est un rendez-vous. Venez voir en grand nombre. Cet excellent match de hockey pour le plaisir au Centre de glace Intact Assurance. Un peu moins de plaisir, Pascal, qui se passe dans le monde. Et c'est pourquoi on va rejoindre à l'instant même Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, parce que la menace d'une attaque des États-Unis en territoire iranien est de plus en plus présente. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Éric, est-ce que les États-Unis vont attaquer l'Iran ce week-end?
Je ne penserais pas ce week-end, à moins qu'il y ait un coup d'éclat du côté des Iraniens, là, si le guide suprême Ayatollah Khamenei décidait que il y avait des éléments de la négociation qui ne voulaient plus poursuivre. Là, c'est possible. Mais autrement, je ne penserais pas. Les négociations avancent et puis
Il faut garder espoir que ça va continuer.
Peu de personnes ont le temps de vraiment s'attarder sur le conflit actuel ou encore nos yeux sont détournés vers d'autres conflits dans le monde. Ça représente quoi? Si jamais les États-Unis attaquent l'Iran, quels sont les embranchements, quelles sont les corrélations envers d'autres pays et les risques pour l'Occident?
Ben, il y a plusieurs possibilités, mais il y a une possibilité plus immédiate, c'est que l'Iran attaque Israël, comme ils ont fait dans le passé. C'est possible aussi qu'ils activent leurs milices alliées là au Liban, par exemple, les Hezbollah, même s'ils ont été fortement amenuisés par les attaques israéliennes, les outils au Yémen. Mais c'est aussi possible qu'il y ait des attentats dans les pays occidentaux. Il y a des craintes à ce niveau-là. Et bien entendu aussi des attaques dans le monde cyber.
Ça servirait à quoi, si je peux me permettre, ces attaques en territoire occidental?
Ben, l'idée, c'est de mettre de la pression sur les opinions publiques pour dire que c'est... pour tenter de faire changer d'opinion l'administration Trump, là, que c'est beaucoup trop risqué et puis qu'on ne devrait pas attaquer l'Iran, on devrait plutôt faire de la diplomatie. Est-ce que ça fonctionnerait? Ça, c'est une autre question.
Est-ce qu'au niveau des attaques dans le monde occidental, on ciblerait beaucoup plus les États-Unis? Est-ce qu'au Canada, on est sain et sauf?
C'est certain que les attaques sont surtout ciblées sur les États-Unis ou sur les intérêts américains à l'étranger. C'est possible qu'il y ait des attaques au Canada, j'en doute, mais il y a quand même une présence du régime iranien au Canada. Il y a des agents sous couvert là, qui sont présents, c'est bien connu, c'est d'ailleurs été discuté publiquement. Mais je pense pas que le Canada soit une cible principale pour l'Iran.
Assurément, on concentre un peu plus nos questions actuellement, puis on vous reparlera de tout ça, mais au niveau occidental, c'est pas la première fois où on a un risque d'attaque. Est-ce que c'est la première fois, par contre, que ça se manifeste de cette manière-là et que c'est aussi important?
Oui, je pense que là, la tension monte beaucoup. Ce qui s'est passé si on remonte il y a plusieurs années à l'époque de l'administration Obama, il y avait des négociations avec l'Iran. Et l'Iran, c'est des spécialistes là, de se traîner les pieds dans les négociations. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, puis on a des discussions circulaires. Les Américains n'ont plus aucune patience là-dessus. Et donc, si les négociations échouent, ils vont passer à l'attaque rapidement. Qui va bien entendu, l'Iran va tout mettre ce qu'ils sont capables de mettre parce que les attaques américaines, cette fois-ci, risquent d'être assez intenses et attaquer à peu près l'ensemble des installations du régime.
Éric, autre conflit qu'on suit attentivement qui implique les Américains, c'est celui avec Cuba. Est-ce qu'on est en train de vivre une baie des cochons d'avril 1961, épisode numéro 2?
Je penserais pas qu'on va envoyer des Cubains entraînés par la CIA à Cuba cette fois-ci, mais je pense qu'il y a une tentative d'étranglement économique très évidente, en particulier en coupant le ravitaillement en pétrole. Oui, je pense que le régime est sous la visée de l'administration Trump pour les faire tomber, pour faire un changement de régime, mais non violent. Plus passer par les mettre à genoux économiquement et les forcer à faire des réformes majeures et de s'aligner plus proche des intérêts américains. Je pense que c'est assez clair que M. Trump poursuit cette politique.
Éric Ouellet, merci beaucoup pour ta présence. Tu es professeur titulaire au département des études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. On regarde ce qui se passe en fin de semaine et on reste en contact pour se reparler la semaine prochaine.
Ben merci, puis au plaisir.
Salut Éric, merci beaucoup. Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. Pascal, il y a des problèmes dans la circulation ce beau vendredi après-midi.
Ben oui, hein, on termine l'émission, c'est vendredi, à l'aube de la relâche. Il y a un petit peu plus de gens sur la route en ce moment, 13h55. Alors, des travaux sur Duplessis Nord à la hauteur de l'autoroute 40. La voie de droite et la fin de l'accès qui provient de l'autoroute 40 qui est partiellement entravée. Sinon, Robert Bourassa Nord, sortie rue Cyril Duquette, voie droite partiellement entravée. Il y a une panne, mais on est en train de la résorber.
Bonne relâche scolaire à ceux qui tombent en congé. Profitez-en, les enseignants, pour vous reposer et revenir en force après cette belle relâche. Nous, on va être là la semaine prochaine. L'émission On en jase à compter de midi. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. Manquez pas le segment Québec-Montréal avec Richard Martineau à 17h02. Bon week-end, cher Pascal.
Salut, à lundi.
Salut.